Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Alors cette semaine, j'ai une voix un petit peu bizarre à cause d'une petite extinction de voix qui est liée au no-code summit qui a eu lieu la semaine dernière, je m'en excuse. Et en marge du no-code summit, j'ai donc eu l'occasion de rencontrer Aymeric et Vincent, les cofondateurs de l'agence Datapix. Voilà, une agence qui est spécialisée dans Glide, mais pas que. Et voilà, on a eu l'occasion d'avoir une longue discussion ensemble. Ce sont des membres de longue date de la communauté no-code. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange. J'espère que vous aussi. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin de l'épisode pour un petit débrief comme d'habitude. Salut Aymeric et Vincent, bienvenue dans le podcast de Contournement. Vous êtes les cofondateurs de l'agence Datapix, qui est notamment spécialisée en Glide. Mais je sais que c'est pas que ça non plus, je sais que vous faites pas mal de choses, donc on va pouvoir en parler. On se connaît depuis assez longtemps tous les trois. Aymeric, je me souviens même qu'on s'est rencontrés avant le Covid, donc ça me paraît être une éternité en fait, dans une autre vie quasiment. Voilà, c'était à l'occasion d'un meet-up à Nantes, qui était co-organisé avec Nicolas Daprigny et Théo Roland, que je salue au passage. Voilà, un premier événement, on n'était pas beaucoup à l'époque, hein, franchement.
Ouais.
On en parlera peut-être. Et Vincent, moi je me souviens, on s'est parlé, je crois, pendant le confinement, en plein confinement, on s'était fait un call en visio. Alors là, c'était du coup vraiment à la mode, un peu la nostalgie de ce moment-là. Voilà, on avait parlé pas mal de Glide aussi, il me semble. Voilà, donc je suis très content qu'on puisse passer un petit moment ensemble. On est à la Felicita, un peu dans le plein cœur de Paris. Et voilà, vous êtes de passage à Paris, donc j'en ai profité. On a le No Code Summit demain aussi, donc là on est en plein vraiment en semaine du No Code. Voilà, donc je suis super content. Et puis, écoutez, on va parler en détail un peu de Datapix, mais d'abord parlons un petit peu de vous chacun. Est-ce qu'on peut, Aymeric en premier, si tu veux te présenter.
Oui, donc je suis Aymeric de Motion. J'ai 31 ans, donc Vincent expliquera, mais je suis un peu plus jeune que lui, de quelques années.
Tu veux dire qu'il est vieux? Non.
Du coup, je suis un pur produit du marketing. J'ai une formation plutôt d'école de commerce, avec une spécification plutôt dans le digital. Après, comme toute personne qui sort d'école de commerce, je savais pas très bien ce que je voulais faire, et donc du coup, j'ai été en agence web digitale. Là, j'ai fait un peu mes premiers armes, tu vois, sur tout ce qui est développement, alors sur la gestion de projet, mais avec une passion de communication avec les développeurs, mais avec la grosse frustration de ne pas pouvoir le faire. Et donc, du coup,
j'ai entendu cette phrase pas mal de fois dans ce podcast, ça fait écho.
Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Orangina Schweppes, où j'étais dans une fonction plutôt marketing, où je faisais de l'achat média, mais avec la responsabilité de tout ce qui était tous les assets digitaux. Donc, je parlais énormément avec la DSI et j'avais vraiment cette casquette de voilà, il y a un sujet digital, c'est Aymeric qu'il faut aller voir. Voilà. Et puis.
Comment t'en es arrivé au no-code, peut-être ?
Et comment j'en suis arrivé au no-code ? Du coup, je suis parti un an en Australie et j'ai atterri à Nantes. Et là, j'ai commencé à faire des meet-up à Nantes parce que je ne trouvais pas le boulot qui me plaisait. Et je suis tombé sur un mec qui s'appelle Simon Robic, ouais. Et qui à Nantes était ultra. Enfin, qui a fait un podcast qui s'appelle La No Code Family, et qui était ultra actif sur des choses qu'il faisait en no-code, mais des choses qui étaient insignifiantes, comme un petit job board avec les premiers outils no-code. Dans ce meet-up, il me dit c'était un meet-up pour apprendre à savoir développer son site. Il me dit tu devrais regarder le no-code. Okay. Et en fait, j'ai commencé à mettre le doigt dedans avec Glide. Et puis alors là, ça s'est plus arrêté. Vous êtes arrivé peu de temps après à Nantes sur ce fameux meet-up dont tu parlais. Et c'est ça en fait qui a déclenché le fait que au début, je n'avais pas la compétence de pouvoir développer des choses. Et là, j'ai commencé à mettre le doigt sur savoir comment organiser une base de données, comment faire une base de données, comment on faisait une interface visuelle. Alors, c'était plus ça, j'avais déjà un petit peu appris via mon expérience précédente en gestion de projet, parce que voilà, gestion de projet ne comprend rien à comment on travaille, comment marche un back-end et tout ça. Mais par contre, la partie visuelle, on l'a travaillé pas mal. Et puis j'ai commencé à essayer de monter sur d'autres outils, et notamment Bubble, où je me suis formé aussi.
T'as fait le bootcamp d'auto, c'est ça ?
Voilà, j'ai fait la formation d'auto. Je faisais partie du premier batch, je crois.
Ah, okay.
C'était tous les soirs, c'était un peu intense, tous les soirs jusqu'à 1h du mat pour pouvoir avancer. Ouais. J'avoue que Thibaut nous en a bien fait baver, mais voilà, c'était une bonne formation. Et puis ça m'a aussi pas mal redonné pas mal de bases, des choses que j'avais pas forcément eues dans ma formation précédente. Et donc du coup, j'ai continué jusqu'au jour où je le tease, mais j'ai rencontré Vincent et on s'est fait un déj. Je pense qu'on en reparlera peut-être souvent.
La rencontre, évidemment, et la naissance de Datapix, on va y venir, mais effectivement, Vincent, présente-toi un petit peu et dis-nous d'où tu viens.
Ouais, bonjour Alexis. Moi, j'ai un parcours J'ai un parcours. Enfin, d'abord, je m'appelle Vincent Véril. J'ai 52 ans. J'ai un parcours assez long. Je suis ingénieur de formation. Pas forcément dans l'IT au niveau de ma formation initiale, mais passionné depuis tout gamin, depuis les tout débuts de l'informatique. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Le digital a été une ligne rouge tout le temps. À une époque, on n'appelait pas encore ça le digital. On était dans le monde de l'informatique. Ouais. Donc, j'ai beaucoup baigné dans l'informatique d'entreprise, dans l'amélioration de processus, dans des logiques métiers, dans le fait d'aider les organisations à être plus performantes. Et c'est ce qui m'anime toujours aujourd'hui. Début des années 2000, j'ai aussi fondé et dirigé une agence de développement logiciel, mais en développement traditionnel.
Ok, donc déjà une première expérience d'agence, ça sera intéressant, ouais. On reviendra dessus.
Et on construisait des outils métiers spécifiques dans le domaine des RH, dans le domaine des outils métiers pour techniciens itinérants, pour faire du suivi d'activité.
Tu faisais du code, toi ?
Moi, je faisais un peu de code, mais j'avais en fait un développeur avec moi qui était dans l'équipe. Okay. Et moi, j'étais plus le pilote que le codeur, mais en fait, comme on en parlait tout à l'heure, je l'alimentais énormément grâce à ma veille, en fait. Toutes les grandes orientations techniques, c'est moi qui les déclenchais. Et lui, il était bien plus performant à faire du code propre et à faire quelque chose.
Des fois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, c'est que quand on a trop le nez dedans, et je pense que c'est pareil pour le code ou le no-code, quand on a trop le nez dans la technique, ça permet de devenir très bon, mais je pense que ça empêche d'avoir un peu ce recul, de suivre les tendances, comme tu disais, de avoir un peu de recul aussi, de regarder un petit peu le projet du client, enfin mieux comprendre et pas être que dans la technique, quoi.
Ouais, exact, c'est carrément ça. Alors à l'époque, on aimait parler de développement rapide, c'était un peu l'émergence des notions d'agilité. Donc là, en l'occurrence, c'était par exemple des projets que je développais en contexte client, assez fort, avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'interactions client. On spécifiait un peu plus au fil de l'eau, en fait, un certain nombre de choses. Et c'était passionnant.
On faisait pas du cycle en V avec des cahiers des charges.
Voilà, exactement. On était sort des modes déjà qui étaient déjà l'émergence de ce qu'on pratique un peu plus aujourd'hui. Après ça, j'ai fait un choix professionnel, aller faire un peu plus de l'accompagnement dans le monde de l'éducation. Donc on est venu me chercher au niveau du groupe Econocom. J'ai rejoint en fait une cellule éducation qui se crée avec le but de transformer l'éducation et la pédagogie avec le numérique. Donc j'ai fait ça quelques années avec pas mal de réussite avant que le no-code vienne m'attraper.
Ok. C'est intéressant. Juste pour savoir quelques exemples peut-être de choses que vous avez fait. Enfin, c'était des actions de formation ou c'était dans.
Alors, c'était des actions d'accompagnement à la mise en place de projets. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup œuvré, un peu même dans les prémices, sur la mise en place de projets qui visaient à développer des pédagogies, par exemple, avec l'écosystème Google Workspace, enfin, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, qui est très performant dans le monde de l'éducation ailleurs dans le monde. Avec mise en place de projets qui pouvaient inclure de la mise en place de matériel. Cette démarche projet qui consiste à animer une communauté dans le but de faire croître la confiance et d'aller chercher l'adhésion du plus grand nombre progressivement par des actions transverses, par la formation, par... Et donc, du coup, mon travail, c'était...
Au service de l'éducation, quoi. Finalement, on peut ramener le numérique, l'informatique. Ok, super intéressant. Et alors, comment, avant d'en arriver à Datapix, mais du coup, comment toi, tu as découvert le no-code plus personnellement ?
Ben, le no-code, en fait, j'ai toujours été hyper amateur de veille. Regarder beaucoup l'évolution des choses. Depuis tout le temps, et à un moment donné, en fait, le no-code est arrivé, et je crois que quand même l'accélérateur, c'était pas mal vous. J'ai compris. En tout cas, je me souviens parfaitement du moment où j'ai pris la décision réelle de quitter mon job plutôt confortable pour me mettre dans l'aventure. C'était dans une salle de sport. Je cherchais à me remettre au sport. Et j'avais le casque et le podcast de contournement. Et en fait, Tout ça a fini par me permettre de prendre la décision réellement, même si ma femme n'était pas forcément hyper fan à l'époque de ce projet. Ouais. Donc,
a priori, t'as bien fait. Après,
voilà,
en tout cas,
on pense aussi. Ouais.
On a tous été un petit peu bercés par les podcasts de contournement sur les longs trajets de voiture, ouais, sur les transports et tout ça. Je pense que...
Donc, en tout cas, sans vous, on n'existerait pas. Ça, c'est,
beaucoup,
c'est
ouais,
un peu près clair. Hein.
Ouais,
donc, c'est un grand
ça
merci.
Fait, ça fait plaisir.
De nous avoir inspiré.
Bah, écoute,
vous, comme
c'est,
d'autres, mais...
c'est un juste retour des choses que vous soyez là aujourd'hui, du coup, et qu'on ait l'occasion de parler de tout ça. Moi, je me souviens qu'on a. Alors, je sais pas, peut-être j'ai un vague souvenir, mais tu avais un projet en glide autour justement du sport, non? Ou non ou,
ouais,
non,
j'en ai eu pas mal en fait. Je trouvais que glide était particulièrement adapté sur des projets de petite taille, hyper agiles, ouais, sur des projets qui peuvent servir et nourrir le monde associatif où il y a énormément de besoins, ouais, digitaux. Pas toujours les budgets. Donc j'ai pas mal testé, j'ai pas mal fait de choses au début sur des outils. Alors, il se trouve qu'à côté, je suis. Président d'une association, je suis impliqué dans certaines choses et donc j'ai directement mis en pratique là,
ouais,
dans ma pratique associative très concrète et encore dernièrement voilà des outils de pilotage donc et après stratégiquement quand on développe une agence voilà on cherche pas en première intention à aller forcément s'intéresser au monde associatif parce qu'il y a aussi des mécanismes de décision qui font que les choses même si
ouais,
ça coûte pas très cher voilà, ça se met
ouais,
pas forcément en place très vite.
Ouais, y a beaucoup d'inertie quoi, dans le monde des assos. Mais bon, ça peut changer aussi. Quoi, c'est...
Mais effectivement, Glide, c'est le premier coup de cœur de départ ouais, réel. Alors, l'origine aussi du projet, c'est une chose qu'Emeric a vécu en parallèle aussi. C'est en pleine période Covid, je pense comme pas mal de personnes de la communauté. Un projet qui démarre un soir sur un besoin très local pour arriver à une application, une mise en réseau, un article de presse dans Ouest France 4 ou 5 jours après quoi.
Okay.
Et en fait ce qui me bluffe c'est justement en plus par rapport à mon background d'avoir fait de l'édition logicielle classique c'est cette accélération incroyable
ouais,
que et pour moi le super pouvoir il est là quoi en fait.
Ouais, ouais. Bah, je pense qu'on l'a vraiment vu et notamment avec Glide vraiment pendant le Covid ça a permis enfin la plupart des on va dire des réactions des choses que les gens ont essayé de mettre en œuvre. Bon, je dis ça, c'est forcément avec le biais de nous, mais impliquer du Glide, quoi. En tout cas, quand il y avait des projets numériques, des choses, référencer les commerçants de son quartier, enfin, toutes ces choses-là.
Et surtout que je pense qu'on a vu beaucoup d'initiatives qui ont été faites via un fichier Excel, via une feuille, un PDF limite.
Oui, t'as raison, c'est vrai qu'en fait, avant Glide, c'est peut-être ce fichier, ce fameux Google Sheet ou ce fichier Excel,
exactement,
en fait, qui est le
et
déclencheur.
En fait, c'est ce qui s'est passé avec Vincent, c'est que et moi, de mon côté, en fait, j'ai eu exactement la même. Alors, on était vraiment à Nantes, on habitait à 15 km d'écart. Et en fait, moi, j'ai vu sur une page Facebook un fichier Excel pour vider les restaurants de Nantes en nourriture et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste inexploitable. Tout le monde c'est la foire d'empoigne que tout le monde est en train de flinguer les cellules. Et du coup, on ne sait plus qui doit aller chercher quoi au restaurant.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, j'ai été branché un Glide dessus. Et on a vidé tous les restaurants grâce à ce Glide-là. Comme ça, en une après-midi, il y avait plus de... tous les restaurants avaient vidé leur stock. Et Vincent a une histoire un peu similaire dans sa ville. Je pense qu'elle est intéressante aussi à restituer.
Ouais, moi, c'était en fait... je suis très impliqué localement. Et du coup, je vois une personne de la mairie de ma ville... diffuser un fichier PDF pour indiquer les heures d'ouverture, tout ce qui concernait la continuité d'activité en mettant ça au fin fond du site internet de la commune et je me suis dit là vraiment c'est pas gagné quoi. Et l'histoire aussi c'est que j'ai fait ça ce soir-là un peu en challenge avec mon fils aîné qui est très tech aussi et qui cherche à mettre en action en disant écoute voilà ce soir on fait un proto on l'envoie et on voit ce que ça donne notre démarche bénévole on va voir comment c'est reçu et de focus sur la mise en action, tester des choses, voilà, essayer, risquer, voilà.
Ouais.
Et ça a cartonné.
Je pense qu'il y a eu autant chez toi que chez moi là-dessus un petit déclic de se dire, waouh, en fait, dans ce genre de contexte, on a réussi à apporter une valeur qui était assez incroyable et qui n'existait pas. C'était impossible de faire ça avant. Enfin. Je pense qu'une personne qui était avec des compétences, moi je commençais tout juste en plus, hein, donc je partais d'un niveau assez basique, et ben je me dis waouh, ça y est, enfin j'ai réussi à apporter une valeur qui est quelque part super élevée. Ça se trouve, les entreprises elles en ont aussi besoin et on peut apporter cette valeur là. Et pour faire le lien aussi, c'est que du coup, dans l'histoire, moi, je me suis formé à Bubble. Bubble a été hyper populaire grâce à Emmanuel, qui est français, et toute la communication qu'il peut y avoir. Mais en fait, personne parlait, et encore aujourd'hui, personne ne parle de Glide comme un outil, avec la puissance que peut avoir cet outil. Donc, tout le monde connaît Glide comme quoi on se branche à un fichier Excel, on affiche quelques informations et basta. Et pas plus. Sauf que dans Glide, il y a des custom actions, on peut aller foutre des API. Enfin, il y a plein de choses en fait que les gens n'ont pas conscience.
Est-ce que. C'est un sujet que je voulais garder un peu pour après, mais non, mais c'est. Est-ce que. Moi, j'ai l'impression même qu'on en parle moins qu'avant de Glide, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que. Et à tort aussi, je trouve, parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire. Et justement, on fera un petit focus dessus pour bien en parler. Mais moi, je trouve qu'il y a eu. Pendant le Covid, clairement, même nous, on était hyper contents de le montrer. Puis on faisait beaucoup de webinars, on le montrait aussi. Il y a eu tous les exemples qu'on pouvait diffuser. Et puis, parce qu'ils ont un petit peu aussi pivoté sur leur positionnement. Et la communauté, je trouve, en parle moins. Il y a toujours des fidèles, etc. Mais je sais pas, c'est une impression.
Moi, je pense que tu as en partie raison parce que je pense qu'à une époque, Glide était très fort dans le. Il pondait des fonctionnalités tous les deux mois et des fonctionnalités qui étaient assez significatives. Et donc, du coup, il y avait un effet d'annonce qui était assez incroyable et qui était super récurrent. Comme un peu le faire un peu WeWeb, je dirais, entre septembre et décembre où j'ai l'impression qu'ils shippaient tout le temps des choses qui étaient significatives sur leur outil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont refait un travail plutôt de fond sur leurs produits. Et du coup, avec une communication qui est un petit peu différente.
Ouais. Et c'est aussi un peu l'âge de la maturité, quelque part. Parce que moi, je trouve que... Alors là, c'est vraiment pour les gens qui connaissent et qui suivent vraiment le no-code game. Mais moi, je trouve que Glide, ils ont un peu abusé de ce truc de sortir tout le temps des fonctionnalités. Au bout d'un moment, il y avait au début, comme tu dis, il y avait des choses très significatives. Et puis au bout d'un moment, c'était ah oui, on a rajouté un bouton pour changer la couleur, quoi. Ouais. Et hop, sur Twitter, il y avait plein d'emojis et tout. Ouais. Et c'était toutes les semaines. Et je trouve qu'ils se sont pris un peu dans leur propre jeu de OK, ils ont vu que les gens réagissaient bien à chaque fois que tu sais, on était là tous. Ah ouais, putain, ils délivrent vite. Et puis en plus, à chaque fois qu'ils délivrent, c'est stable. Ouais. C'est une fonctionnalité carrément importante. Puis au bout d'un moment, c'est devenu un peu. Et je pense qu'ils ont à raison, à mon avis, ils ont aussi un petit peu OK, on calme un peu. Et puis, après, il y a eu toute une refonte. Enfin voilà, mais écoutez, on va revenir là-dessus après parce que là, sinon, on est parti direct un peu pour les connaisseurs. Mais j'ai envie de parler d'abord vraiment de Datapix parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et qui, je sais, intéresse aussi vachement les gens, le côté agence. Et on en parlait un petit peu en off avant. Il y a beaucoup de freelance maintenant qui se lancent dans le no-code, qui travaillent un peu comme ils peuvent, qui sont passionnés par les outils et tout. Mais je pense qu'il faut de la structure. Et en fait, je trouve que les agences, comme vous, ce que vous faites, et aussi par votre background, apportent, tu vois, de la méthodologie que les freelances peuvent s'approprier un petit peu. Enfin, ce qu'on disait, la gestion de projet, tout ça, c'est très important. Enfin bref, donc j'ai envie que vous racontiez un petit peu comment vous fonctionnez pour que ça inspire un peu les gens. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent lancer des agences. On le voit, il y a plein de petites agences qui éclosent, je ne sais pas comment dire, bref, qui arrivent dans le... Donc voilà. Bref, racontez-nous la rencontre. Voilà, je sais pas qui veut des deux.
La rencontre, c'était assez simple en fait. On s'est bien que nantais tous les deux. En fait, on se connaissait pas préalablement. Et puis, à minuit, on a fini par déjeuner ensemble. Après, s'être identifié sur la communauté Glide en fait.
Ouais, on s'est pas rencontré sur Tinder, on s'est rencontré sur Slack. Ouais.
C'est vrai que tu parles de Tinder, mais c'est vrai que c'est une vraie rencontre. C'est pas vraiment synonyme d'un mariage, quoi.
C'est ça.
Donc, on était tous les deux déjà hyper passionnés par l'outil. Et nos expériences respectives un peu similaires avec cette courbe de mise en place de premier projet a fait résonner les choses de part et d'autre. Après la mise en place, on n'est pas sur des stades de vie similaires. Moi, j'ai démarré un tout petit peu plus vite. Emeric était en poste, il y avait d'autres engagements. Tu achetais un appart, donc il y avait un peu de... Voilà, c'était pas ma temporalité n'était pas la tienne. Et moi, j'ai quand même décidé d'y aller dans un premier temps tout seul. Après, on a aussi laissé le temps de, comme on se connaissait pas, de se rencontrer nous vraiment, quoi.
Bien sûr, ouais.
De vérifier qu'on était potentiellement capable de faire un chemin ensemble. On a fait même du coaching pour nous aider à bien fixer certaines choses et essayer de se mettre un cadre et puis de se rassurer quoi, avant de décider de signer et d'y aller ensemble.
Je me permets juste de revenir sur le déjeuner de 30 secondes parce que du coup Vincent à la fin du déjeuner, je crois que l'initiative du déjeuner venait de moi, mais à la fin du déjeuner c'est Vincent qui a pris l'initiative en disant et du coup on s'est vu pourquoi aujourd'hui. Et il m'a sans laisser de perspective de dire moi j'ai envie d'aller de créer des choses et potentiellement d'y aller à plusieurs, il m'a lancé cette perche là et en fait moi je lui ai dit rapidement voilà, il y a un petit projet qui sommeille en moi d'entrepreneuriat. J'ai pas rencontré
petit, je pense qu'il était plus que petit.
Oui, il était plus que petit. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un vrai matching sur la même plateforme. Et ce déjeuner, en fait, on a passé le déjeuner à un petit peu rêver de ce qu'il était possible de faire avec Glide. Et donc, du coup, ça a été un peu la première allumette. Et en effet, moi, ça faisait pas longtemps que je m'étais engagé dans un job. Donc, je souhaitais pas en partir tout de suite. Et je voulais surtout, comme l'indiquait Vincent, valider cette partie. On s'associe. On va plus loin parce qu'on est deux.
Mais ça, c'est je pense que c'est un très bon conseil déjà là, que vous partagez. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un feeling et tout, mais c'est une bonne idée quand même de peut-être un peu faire des choses ensemble, d'abord avant de s'associer, quoi, comme tu viens un peu vérifier un peu cette je sais pas, compatibilité. Et le meilleur moyen de faire, c'est faire un projet ou deux, ou prendre un truc. Il n'y a pas besoin d'être déjà associé, d'avoir une structure, etc. C'est ça vient après. C'est une question de confiance, c'est une question
complètement.
Après, on s'est dit, moi en fait, quand je me rencontre avec Aymeric, du fait de tout mon background, en fait, pour moi, ce chemin-là, il devient assez vite évident que je ne veux pas y aller seul.
Ouais.
Je veux être capable d'apporter de la valeur à des entreprises avec une démarche structurée. Et je sais que seul, je ne peux, peux pas accomplir ça. Donc,
Oui, et puis même pour insister là, sur ce point-là, c'est qu'on était assez convaincus que le marché du no-code, il était en train de se structurer avec beaucoup de freelance. Et en fait, on s'était dit, la perception qu'on veut avoir devant les entreprises, c'est qu'on ne veut pas être une personne isolée qui va porter tout le poids du projet juste sur sa personne à soi.
J'ai une petite anecdote là-dessus. Alors, je ne dirai pas son nom, mais j'ai discuté avec un freelance il n'y a pas très longtemps. Et il me disait qu'il ne faisait rien en son nom propre. Ouais. Mais avec un nom d'agence, parce qu'il disait que c'était plus facile avec les boîtes, même s'il était lui tout seul derrière, il mentait pas spécialement, mais c'est juste voilà, la façade, c'est il y a un nom d'agence, et c'est pas lui en tant que...
Ça rassure beaucoup en fait, et on l'a vérifié très rapidement dès les premiers clients, c'est le fait d'être structuré, de se dire on est une agence avec deux fondateurs qui ont des têtes qui sont plus une tête un peu plus technique avec Vincent, plus une tête un peu plus marketing. En fait, on sentait que derrière, les conversations, elles se libéraient beaucoup plus rapidement et qu'il y avait une confiance déjà, avec ce petit pilier qui était avancé.
J'ai un exemple particulier aussi pour illustrer ça. Parmi nos premiers partenaires, clients, on a la Fédération Française d'Échecs qui compte beaucoup dans notre parcours, dans notre posture. Ouais. Et ça nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup aussi. Et lors de la mise en place, au tout début, le président m'a dit, en gros, c'est quoi ton projet et quelle entreprise tu veux construire ? Sous-entendant que eux, ils étaient prêts à construire pour l'avenir dans une direction peut-être avec nous, mais que notre positionnement en tant qu'entreprise est extrêmement important parce que eux-mêmes, ils étaient dans une situation très dépendante de certaines personnes techniquement et qui souhaitaient justement pas reproduire les schémas qui était problématique pour une structure.
C'est marrant parce qu'en plus, il y a un côté un petit peu irrationnel dans cette demande, mais je vois très bien ce que t'évoques, tu évoques. Les gens se disent, bon, un freelance, il peut disparaître du jour au lendemain. Il y a un peu ce truc-là. Alors qu'en réalité, j'ai envie de dire quelque part, t'as aussi plus de chances qu'une boîte qui est avec deux fondateurs, que les mecs se séparent, tu vois, et que la boîte s'arrête, que les deux, en fait, existent. Mais bon, on peut comprendre. Après, il y a le côté un peu entreprise, quoi. C'est-à-dire à deux, vous avez fait une entreprise. C'est déjà une démarche quand même qui est lourde, donc ça rassure forcément les gens par rapport à quelqu'un qui est freelance, auto-entrepreneur, littéralement. C'est vrai que tu peux vraiment disparaître légalement assez facilement. Donc,
ils vont chercher de compétences aussi quelque part.
Ça, enfin, oui.
Au tout début, ils ont été chercher de compétences et ça les intéressait parce que ils tapaient sur Data. Enfin, ils visaient Datapix derrière, ils avaient deux backgrounds qui étaient super enrichissants parce qu'on n'est pas du tout du même monde en fait. On n'a pas la même histoire.
Et plus potentiellement, vous avez la capacité de travailler avec des freelances, vous par exemple, pour compléter votre équipe, que ça soit transparent pour eux. C'est pas pareil de travailler avec deux freelances ou trois que de travailler avec une agence qui peut-être, elle, va effectivement sous-traiter le design ou quoi, ça n'a pas de problème, mais c'est plus leur problème à eux. Eux, ils ont un interlocuteur qui doit rendre des comptes, etc. Non, ça c'est intéressant, c'est un bon... Et juste pour. C'est quand c'était à peu près la date du déjeuner? Non, mais juste pour situer
en
dans le temps.
Septembre 2019, je dirais. C'est ça?
2020, non.
2020.
Ok. Non, mais c'est. Et de là, à partir de quel moment? Donc là, pas longtemps après, vous avez commencé à faire des choses ensemble?
Alors, bah, toi, enfin, tu as créé la société d'abord?
Moi, j'ai créé la société en novembre 2021.
On se tenait au
juridiquement,
courant.
On se tenait au courant, on est resté en lien. Ouais. Mais très rapidement, en fait. Alors, on n'a pas. En réalité, on n'a pas beaucoup collaboré
en fait,
sur des projets ensemble préalablement. On n'a pas mené de projet. Je ne t'ai pas mandaté.
Mais non, mais on s'était quand même dit toute une partie de dire on se montre des projets. Peut-être seulement si Vincent avait des clients au début, je disais
oui.
Moi, à titre, toi, je t'aide à essayer
un
de.
Partenariat.
Voilà,
c'est simple.
Ouais, et après, en février, pour moi, février. Non, mars. Parce que c'est le jour où j'ai eu mon dégât des eaux. On a fait du coaching et du coup, on a fait du coaching ensemble pour pouvoir commencer tout un parcours comme ça pour apprendre.
Alors, dites-moi, ça m'intéresse. Vous vous êtes fait coacher, vous, pour vous associer et créer la structure.
Ouais, exact.
C'est ça.
Okay.
C'était en fait.
C'est qui vous a. Enfin, est-ce que.
Ah, moi, c'était quelqu'un de mon réseau, Ludovic, de mon réseau, là, qui est. Voilà, qui avait une posture que je trouvais intéressante. Et dès que j'en ai parlé, en fait, du coup, il m'a proposé son accompagnement. Et en fait, moi, j'avais, préalablement à cette association, déclenché un peu d'accompagnement pour moi tout seul, en fait.
Ouais.
Pour mettre plus de focus, sur les questions stratégiques, avoir un espèce d'effet miroir que je n'avais pas forcément sinon. Et naturellement, en fait, après, ça a pivoté parce que lui, il avait capacité aussi à faire en sorte que, voilà, qu'on passe du temps. Alors, ça ne nous a pas pris énormément de temps, en réalité. On n'a pas eu beaucoup de sessions, vraiment, de travail, mais il a su nous emmener sur des points d'attention, des points importants pour nous, respectivement.
C'était vraiment axé sur la partie humaine. Comment on peut apprendre à se connaître, c'est quoi le tempérament de chacun, comment on réagit en cas de situation de crise, et tout ce genre de choses. Mmh. Et finalement, on a quand même très peu parlé de nos codes. Parce qu'en fait, on allait passer du temps ensemble,
pas du
en
tout,
fait.
Hein,
ouais. Puis à la limite, ça, c'est votre compétence à vous, entre guillemets. Mais lui, j'imagine qu'il vous coach sur... Enfin, de ce que je comprends un peu sur le côté entrepreneurial, association,
exactement.
Où est-ce qu'on va, comment on travaille ensemble.
Et sur le plan de vraiment de la dimension humaine, quoi. Ouais. C'était vraiment ce focus en particulier, dans la mesure où on ne se connaissait pas préalablement, d'aller pointer des choses... qui nous permettent d'apprendre à mieux se connaître un peu plus vite, quoi.
Ouais.
Et le but étant d'éviter des situations que vivent tous associés dans un groupe. C'est que par moment, les situations, la pression monte, et puis à un moment donné, faut savoir gérer les moments un peu moins bien, et que c'est hyper important.
À mon avis, pour faire ça efficacement, ce que tu évoques, il faut avoir commencé dès le début avec le coach, à mon avis. Parce que quand tu as des situations compliquées, je pense que c'est trop tard, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de faire venir quelqu'un qui va arriver dans un contexte compliqué. Alors, ça doit arriver, il doit y avoir des gens qui doivent savoir bien gérer ça, mais je pense que tu dis quelqu'un qui a suivi tout, il sera plus à même. Je sais pas, il y a une relation de confiance, je me dis peut-être, je sais pas, en tout cas c'est...
On est accompagné toi en ce moment par aussi deux autres acteurs qui sont la Banque Tarno qui est notre incubateur et par le réseau Entreprendre dans lequel on est lauréat. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tu vois, dans le parcours qu'on a fait, ce coaching initial était hyper important et que ces coachings qu'on a par ces intermédiaires-là, qui sont avec des acteurs qui sont assez différents hein, parce que ça peut changer, et bah, c'est vachement complémentaire au stade où on en est.
Ouais.
Et ça, c'est hyper intéressant. En fait, on voit que ce fil rouge de coaching, il est quand même hyper intéressant.
Ouais, ouais, ok, non, ça c'est
parce qu'on sait que l'avenir de notre projet, là aujourd'hui, il y a plein de choses extrêmement positives dans notre développement. Il y a plein de signaux qui sont géniaux, et on sait que le risque principal, c'est malgré tout un risque qu'on se désynchronise et qu'à un moment donné, on soit pas suffisamment aligné pour faire grandir l'entreprise et tout ça. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on prenne soin de notre relation d'associé de manière générale.
C'est une vraie histoire de couple. Hein.
Non, mais c'est hyper intéressant.
C'est ça.
Moi,
ça
me fait écho aussi avec ce que je vis avec Erwan. Et j'ai vu, quand on est associé à deux, je pense que quand on est plus que deux, c'est différent. Mais quand tu es trois, tu as d'autres plus de personnes, mais quand tu es à deux, je pense qu'avoir une personne extérieure, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà envisagé, et puis on n'a jamais fait. Et en fait, c'est vrai que plus le temps passe, plus ça devient difficile, je pense.
Oui.
Et puis voilà, puis nous, après, des fois, Erwan, il a accompagné beaucoup de gens aussi lui-même en tant que coach. Enfin, tu sais, t'as un peu aussi ce truc, tu te dis, bon, est-ce que nous, on va se faire coacher Mais c'est un peu bête. Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait dès le début, quoi. Très honnêtement, j'identifie pas spécialement de moment où ça nous aurait servi, mais je pense que ça nous aurait forcément servi. Et c'est un truc que j'avais entendu d'ailleurs dans Génération Do It Yourself, il parlait de ça dans un des épisodes de podcast. C'est un truc sur lequel il revient assez régulièrement, de fait d'être coaché en tant qu'entrepreneur. C'est assez cool. Plus concrètement, qu'est-ce que vous proposez en tant que DataPeak? C'est quoi un peu votre offre? Donc on a compris qu'il y a du Glide, ça c'est votre expertise. Vous êtes des experts certifiés, enfin voilà, vous avez une relation assez proche avec Glide, peut-être on en reviendra après dessus, mais c'est quoi un peu? Quand je dis ça, c'est un peu peut-être, est-ce que vous avez des exemples d'ailleurs de projets, de voilà, tu vois.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne travaille pas du tout, je le fais plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas du tout, par exemple, on ne va pas faire une landing page, c'est pas notre... Ouais. Enfin, s'il y a un client qui nous demande, on a la capacité de le faire, mais ce n'est pas notre expertise, c'est-à-dire qu'il y a des gens très bien, et à Nantes, il y en a vraiment des très très bien qui font des landing pages, sur Webflow notamment. Du coup, c'est vraiment pas ça, nous on va plutôt travailler là où il y a de la data, et là où on va faire de l'outil qui va pas être, qui va être de l'outil plutôt interne. Ouais. C'est vraiment l'ADN des prestations qu'on veut vendre, parce qu'on sait que là-dessus, on a beaucoup de valeur ajoutée à donner.
Parce que tu évoquais, Vincent, toi tu as fait ça déjà depuis un moment.
On essaie de se positionner pour prendre le meilleur parti.
Ouais, il y a des gens qui passent avec des roulettes, des chariots.
de l'outil Glide qu'on adore. Moi, j'aime parler d'un peu d'hyper-agilité avec cet outil parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être encore plus vite par moment. Et que du coup, ça nous permet d'adresser des projets peut-être aussi de nature différente. Et aujourd'hui, on a notamment fait le choix de mettre un focus un peu plus particulier sur tout le secteur de l'événementiel de manière très large. Parce qu'on estime que l'outil, il est très adapté à ce type de contexte. Et voilà, donc il y a une petite tonalité de spécialisation par rapport à cette dimension-là.
Donc l'événementiel, c'est quoi? C'est faire des applis pour des festivals,
ça peut être ce genre de choses, mais ça fait aussi toutes les des applications, tu vois, pour l'organisation. Le fichier Excel dans le monde de l'événementiel, il est hyper présent. Ouais. Et on voit les fichiers Excel en disant voilà, répartition des tâches, par exemple, pour savoir combien de chaises il faut mettre dans une salle et ça. Et par exemple, ça, on va pouvoir le faire, aller se brancher directement sur ce fichier qui est potentiellement déjà existant et pouvoir le convertir en une application qui va permettre de faire toute la logistique interne. Ouais. Donc c'est un exemple, mais en fait, on en a identifié pas mal. Il y a événementiel et ce qui est assez proche, qui est le tourisme aussi. Ouais. Cet aspect touristique qui fonctionne aussi pas mal.
Et donc là, on a déjà des beaux projets de nature différente. On voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On parlait de la Fédération française des échecs. On a produit et livré trois applications successives pour les championnats de France. Et ça marche plutôt bien. En tout cas, les clients sont plutôt... satisfait
de
tout ça.
Des applications plutôt pour leur organisation
Là, en l'occurrence, non. C'est une application pour aller propulser et délivrer une meilleure expérience sur tous les participants, sur tout le public qui est concerné par l'event. Donc là, on parle à peu près de 3000 personnes hyper concentrées sur la partie compétition, sur les résultats, sur tout ça. Et l'application, elle s'adresse en particulier à eux. En contexte d'événements physiques, donc c'est-à-dire là où la mobilité devient extrêmement importante.
En fait, aujourd'hui, c'est un secteur où on sait, on a pas mal de demandes autour de ça. Enfin, et Glide est vraiment très, très compatible. Je voyais Lucien qui, lors de dernier Knocked Game, parlait de Swapcard qui n'était pas super complètement stable. Moi, je sais que c'était pas forcément aligné, mais je pense que honnêtement, sur certains aspects, alors pas les conversations one-to-one et Stan l'évoquait, mais je pense que Glide pourrait être stable pour une partie de ces publications. Donc moi, c'est un peu mon gros enjeu. On l'a fait sur un événement Nantais où on a publié une application Glide, où on a pu alimenter en contenu de ça. J'ai l'ambition de pouvoir me dire qu'on va le faire sur un événement de plus grande ampleur, parce qu'on sait que d'un point de vue montée en charge, c'est un outil qui tient la route.
Moi c'est toujours le même réflexe, c'est-à-dire est-ce qu'on réinvente pas la roue, mais après je connais pas assez aussi Swapcard du point de vue de l'organisateur, tu vois, où effectivement peut y avoir quelques limites, je sais même pas combien ça coûte aussi, peut y avoir aussi
il y a un sujet là-dessus,
ce truc là qui peut être mais du coup vous avez creusé un peu
on a pas mal creusé et on a vu pas mal de personnes qui l'utilisaient et qui en fait faisaient beaucoup d'export de, tu vois, ils avaient une billetterie par exemple d'un côté, ils faisaient un export
pour le réinjecter,
et réinjecter de l'autre côté, et en fait de faire une full stack no code pour pouvoir tout automatiser en fait. Je pense que ça serait cohérent.
Après aussi il y a un autre aspect, c'est qu'en fait on aime l'idée des templates qui servent de base de démarrage pour en fait se remettre dans une perspective de sur-mesure, mais sans partir de la page blanche. Et en fait, on trouve que là, du coup, Glide est assez puissant, même si perfectible, mais en tout cas...
Il y a un gros enjeu autour de ça, c'est qu'on sait que Notion, ils ont énormément développé cette partie template, tout ça. Bubble aussi un petit peu. Je pense que Glide, aujourd'hui, ils n'ont pas craqué comment faciliter la duplication de template avec des workflows qui sont simples sur des gens qui ne sont pas forcément très compétents initialement. Donc nous, on est en train de les challenger un petit peu parce qu'on est en train de faire on a un partenariat avec une personne qui organise des salons du mariage. Et donc, du coup...
Ouais, je me rends compte qu'on n'a pas pris l'emplacement le plus stratégique parce qu'il y a une cuisine pas loin, mais normalement on ne doit pas trop entendre avec les micros comme ça. Okay. Donc
et donc du coup, on voit qu'il y a des choses à craquer au niveau des templates avec Glide, et eux ils ont recruté une personne spécifique pour ça, pour travailler ça, et nous on pense qu'en fait on peut réussir aussi peut-être à apporter une méthodologie de duplication qui est simple pour des personnes qui ne sont pas forcément éveillées au no-code de base, en fait, qui ne connaissent même pas. Voilà.
Ouais, non, c'est hyper intéressant.
Alors ça, c'est notre positionnement agence, en fait. Alors, ce qu'on...
T'as juste, on a pas du tout parlé de la partie, je dirais, outils métiers, et plutôt CRM, avec un petit focus sur le QHSE aussi, qu'on a identifié. Alors, QHSE, c'est toute la sécurité au travail et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on était en échange de façon assez significative avec beaucoup d'interlocuteurs dans ce monde-là. Et alors, assez largement, pendant 4 mois, on a fait une sorte d'étude autour de ça. Et on voit que là, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de valeur à aller ajouter avec notamment Glide.
Alors justement, notre vision par rapport à ça, c'est d'aller explorer des niches avec des beaucoup de spécificités. Et du coup, voilà, globalement, notre démarche, ce qu'on cherche aussi à faire, c'est aller parler à des experts métiers. Voilà, pour voir où sont les espaces de création de valeur, et voilà, où est-ce qu'il y a vraiment des besoins qui peuvent être identifiés. Sachant que nous, en fait, on n'est pas en mesure de pouvoir définir précisément... parce que ça nécessite une expertise qui n'est pas celle qu'on a, et donc du coup on discute beaucoup avec des gens, des consultants indépendants, des gens qui sont vraiment au contact de problématiques métiers très fines, et on a espoir que cette démarche nous amène assez loin.
L'idée, c'est vraiment de faire des réponses à 4 mains, toi. Quelqu'un qui est vraiment dans le métier tous les jours, et qui n'ont pas forcément une compétence technique pour pouvoir aller développer des solutions.
Ok, je vous propose juste qu'on fasse une petite pause et qu'on aille se mettre sur les tables hautes là-bas, parce que je pense que ça sera peut-être un peu mieux. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte s'il y a beaucoup de bruit autour, mais enfin dans l'enregistrement, mais je pense que là-bas il y a quand même on n'aura pas au moins la cuisine juste à côté. Je relance l'enregistrement et on peut continuer. Et donc on parlait, alors il faut que je sorte mon cahier en plus, mais je vais vous laisser parler pour reprendre. Donc on parlait de vos clients, vous parliez un peu la partie QHSE. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets, on va dire, de projets, enfin voilà, donc vous êtes particulièrement fier, que vous avez envie de partager un peu?
En fait, sur la partie qu'on intitule globalement outils métiers, le terme est assez large et générique. En fait, ça recouvre plusieurs types de projets. On en a un qui est plutôt récent et qui a été assez top, c'est une PME en plein développement dans le domaine des services qui devait améliorer son process interne au plus près de son processus de production. Donc ils avaient un besoin d'un outil de pilotage extrêmement central avec des besoins de collaboration externe avec des clients et des partenaires. Donc on avait en fait ce double adressage avec une nécessité de construire des interfaces et des flows spécifiques et des vues des droits spécifiques par rapport à ça. Et là du coup c'était plutôt top parce qu'on a réussi à relever le défi en 3 mois. On avait un planning qui était plutôt serré. On a réussi à rester hyper agile, c'est-à-dire qu'en fait le scope a été à basculer parce qu'en fait il y a certaines choses qu'ils ont identifiées à partir du moment où on avait livré les protos, et du coup ça a ouvert des choses incroyables de leur côté. Donc en fait il y a eu des petits pivots. L'impact, c'est que maintenant on discute d'une phase 2. Du projet qui va du coup évoluer après un été réussi. Donc,
ouais, on voit quand même que 3 mois, c'est quand même un temps assez conséquent de projet, parce qu'on a l'impression toujours que voilà, une appli no code, ça se fait en 2 heures.
En fait, enfin, je vais pas parler de problème, c'est plutôt dans le processus. Ce qu'on remarque en fait, c'est que c'est pas forcément les temps de production qui sont les plus longs, c'est les temps d'interaction. Le client a aussi besoin de digérer un petit peu ce qui est produit pour pouvoir l'appréhender, de pouvoir comprendre, savoir aussi comment il va pouvoir évangéliser en interne sur l'outil, ça. Et du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des temps qui sont un peu incompressibles. Donc par exemple, là, je pense que tu me corriges, Vincent, si je me trompe, mais pendant 3 mois, Vincent, il n'était pas derrière son ordinateur en train de mettre en place l'outil. Et qu'il y a eu des phases où il y a eu des blancs pour pouvoir permettre cette fameuse fermerie ce projet dans l'esprit du fondateur.
Et du coup, parlez-moi un petit peu de justement cette un peu la gestion de projet. Comment vous recueillez le besoin? Comment vous savez qu'est-ce qu'il faut faire dans Glide, quoi?
Le scope, en fait, on essaie de le définir. D'ailleurs, on a travaillé dernièrement sur une méthodo pour essayer d'être encore plus précis sur la recherche et l'analyse du besoin, considérant qu'aussi, on a beaucoup de gens à qui on interagit, qui sont des gens qui ne sont pas du tout habitués à exprimer des cahiers des charges et à exprimer leurs besoins. Donc, en fait, on a besoin de trouver un espèce d'équilibre entre un espace de définition suffisamment précis pour chiffrer, avancer, mais aussi de conserver beaucoup d'agilité et beaucoup de capacité à effectuer des petits pivots aussi en cours. Et là, il y a un beau défi. Donc, les cahiers des charges, c'est pas un process qui prend 3 mois avec un livret de 40 pages avec des phrases partout.
Personne ne lit, personne ne comprend.
On nous a par moment mis dans ces process-là, et quand on a vu ce qu'on nous livrait, on s'est dit on n'est pas dans ce qu'on attend. C'est pas assurément interprétable pour nous.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une première, et ça c'est le travail qu'on a entamé et qui n'est pas complètement encore abouti, mais c'est-à-dire qu'un peu sous le même principe que le business model Canva, où tu vas remplir chaque case. En fait, on s'est dit comment on peut, sous ce même modèle-là, de façon assez visuelle, accompagner le client pour pouvoir réussir à nous spécifier ce dont il a besoin. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'au lieu d'avoir un cahier des charges où la personne, parce que ça arrive encore des gens qui nous font 3 pages juste pour dire je veux ça, mais en fait, on leur dit vous oubliez ça, même si c'est un croquis sur un bout de papier, vous nous faites le croquis et après, vous nous faites les chemins de fer de l'application en fonction des personas. Et en fait, déjà, ça nous permet d'avoir une vraie base de discussion. Et après, nous, c'est là où on commence à traduire et on va changer en posant des questions et du coup, il se passe quoi?
Mais est-ce que ça, c'est intéressant, est-ce que les gens sont en capacité de faire ce chemin de fer? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens...
Pas toujours.
Non,
clairement pas toujours.
On va dire que globalement, la réponse est plutôt non. Après, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une méthode d'accompagnement. Alors après, effectivement, il y a un autre sujet sous-jacent. C'est est-ce qu'il faut développer un appui à la création de cahier des charges, est-ce que ça, en fait, ça doit être de quelle manière on l'appréhende? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vend en réalité en amont du projet pour aider à construire la démarche? Aujourd'hui, on n'est pas encore complètement calé sur notre process là-dessus. C'est encore un peu tôt.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça passe par une énorme phase d'écoute, en fait, où c'est quand même nous qui faisons le job retranscrire.
C'est ça. Et après itérer, mais de toute façon, il n'y a pas de... Personne n'a trouvé encore, je pense, la méthodologie parfaite, mais toute cette approche un peu de co-conception, quoi, j'ai envie de dire, d'approche un peu centrée utilisateur, faire parler les gens, et puis après les faire réagir, mais je pense que c'est un des enjeux quand même principaux de la construction d'applications, qu'elles soient en code ou en no-code, mais encore plus en no-code, parce que, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais ce truc de se dire, par exemple avec Glide, on peut itérer très vite. Je me demande si des fois, justement, les gens ne se disent pas « Bon, allez, on va dans l'outil direct. » Et comme on pourrait itérer, ce n'est pas grave. On n'a pas bien compris vraiment ce qu'ils veulent. On leur fait un truc, on leur donne, et puis on les fait réagir dessus.
Ouais, non, surtout
je
ne
sais pas.
Surtout pas, parce qu'en fait, fondamentalement, Glide, c'est un outil où le point de départ, c'est la structuration des data. Et aujourd'hui, si on part à côté ou mal, en fait, on va devoir, en cours de projet... faire des pivots qui vont nuire à la qualité de la réalisation.
Mais alors ça, justement, est-ce qu'il y a, enfin, vous, comment vous faites, tu vois, je veux dire, au-delà d'écouter, comme tu dis, d'analyser, comment tu sais quelles sont les entités du projet, comment tu structures ta Google Sheet, Sachant qu'en plus, c'est pas vraiment un outil de base de données, donc ça, bon, ça oui. fait un peu un autre débat, mais bon, on peut quand même faire un peu...
Bah, pour le coup, on utilise pas mal les outils comme Wismuckle pour, ouais. pouvoir, pour pouvoir refaire en fait, nos tables. Mais...
Décidément, on n'a pas de chance de nous poursuivre. Ouais, là, on va vraiment bien entendre. On va les laisser passer.
C'était la pause pub café. du coup, on utilise ces outils-là et en fait, on revient sur des choses qui sont assez proches du monde de développement où en fait, ouais. avant de commencer, on va faire notre table sur quelque chose de visuel.
Ouais, vous schématiser.
Et d'ailleurs, moi, je lance un appel si quelqu'un a des idées ou des choses à nous amener sur des conceptualisations de base de données, ouais. une espèce de designer de database, ouais. Quelque chose de très visuel en no code. Nous, on serait preneurs d'outils.
En outils, tu parles. Ouais. Ouais. Franchement, là, enfin, moi, de à ma connaissance, c'est vrai que les gens utilisent pas mal Whimsical, Miro, éventuellement, n'importe quoi. En fait, n'importe quoi, parce que finalement, c'est. Enfin, il y a des outils plus spécifiques vraiment pour les bases de données, tu sais, où tu peux faire apparaître les relations, etc. C'est des relations multiples et tout, mais. Plus important pour moi, à mon avis, c'est de se poser la question, oui. faire soit sur un bout de papier, sur WebSQL, etc., avant d'aller dans le Google Sheet ou dans Airtable.
Ça, ce travail, on le fait dans l'équipe. On a une jeune femme là, qui a récemment intégré la team, qui est top, qui a plutôt un profil. On a école de design, enfin, cette partie plutôt ouais. Expérience utilisateur globalement.
Attends, on va laisser passer, comme ça, je couperai éventuellement. Ouais, non, j'avais pas anticipé le matin à la Félicita.
La mise en place des cuisines, en fait.
Ouais, ouais, en fait, c'est la mise en place, en fait. C'est, j'avais pas pensé pour l'enregistrement. Bref.
Et donc, pour revenir sur l'exemple de Stéphanie, en fait, elle est la démarche avec elle est super intéressante. Elle est montée très vite en compétence sur plein de sujets. Et on a dû passer un temps spécifique, justement, sur. La compréhension de ce sujet-là, sur le fait de mener une démarche de ressources bien structurées. D'ailleurs, je lui fais une petite remarque sur le dernier projet qui est l'objet de la démo de vendredi, où en fait, elle est partie un peu trop à fond dans l'outil. Et en fait,
mais c'est très dur. Là,
c'est hyper important de se poser sur une feuille de papier, ouais. sur, voilà, peu importe la méthode, en fait.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais en particulier sur ce point de la modélisation des données, c'est un truc, tu vois, cette analyse que toi, tu as dû faire plein de fois dans ton passé, etc. Moi aussi, j'ai même étudié ça, tu vois, à la fac. C'est-à-dire, OK, c'est quoi les entités? Comment elles sont liées entre elles? Les gens ont vachement de mal, tu vois. Enfin, dans Airtable, comme on fait des formations Airtable, on voit beaucoup ça. Deux tables qui sont en fait qui ont exactement les mêmes champs, mais les gens ils veulent séparer les prospects des clients, tu vois.
Oui, oui.
Non, c'est la même table et puis c'est un statut différent, mais tout ça pour le faire comprendre, c'est très difficile.
Pour la petite anecdote, on a récupéré un projet où la personne elle avait fait sa base de données, je pense que c'était un fou de Google Sheet, et donc avec des formules dans tous les sens, il y avait 4000 exercices qui étaient en relation avec des sheets qui étaient partout. Alors, je lui ai dit en fait on va simplifier, hein. Et on a assaini tout ça.
Ouais.
Et à la fin, je lui dis, bah en fait, là où ton projet, il a déjà quasiment plus de 25 000 lignes. Enfin, non, on était quasiment à 25 000 lignes. Bah, je crois qu'on est passé à 4 000 lignes à la fin parce que c'était bien refait. C'était pas des Google Sheets qui en appelaient d'autres et tout ça.
Ouais.
Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent où on a des porteurs de projets qui ont commencé à mettre un peu les mains dans Glide. Et le pire, c'était genre un truc où il y avait 4 Google Sheets et en fait, c'était les quatre tables. Qui étaient liées et qui s'appelaient les unes derrière les autres via des formules. Voilà. Donc, quelquefois, ça fait un peu mal aux yeux. Et quand c'est comme ça, bah, en fait, nous, on leur dit on crache tout, on se repose sur qu'est-ce que c'est la data et on remet tout ça dans l'ordre. Quoi.
Mais en fait, dans les projets qui vont être un peu plus costauds, où il y a vraiment besoin, cette partie-là, on l'a fait valider, c'est-à-dire qu'on pose un temps, on schématise et du coup on prend le soin de vérifier que globalement le client valide un peu la structuration de data.
Parce qu'il faut, c'est pas forcément évident pour vous de bien comprendre aussi le contexte client qui fait découler du coup cette modélisation. Des fois on vous les écouter du mieux que vous pouvez, peut-être qu'ils vous ont pas bien expliqué les choses ou quoi, donc c'est vrai que ça c'est là-dessus. Et encore une fois, je pense qu'un peu comme vous dites, il faut pas aller dans Glide tant que ça c'est pas validé quelque part, quoi.
Mais tu vois il y a même les pivots où quelquefois on s'est retrouvé dans une application là en janvier où en fait c'était un porteur de projet qui voulait lancer l'application d'une certaine manière. Donc la base de données fonctionnait de cette manière-là, et du coup a fait tester pendant 3 semaines à des utilisateurs, et il a dit bon, en fait non, j'ai envie de changer complètement le process. Sauf que le process avait une énorme influence sur la base de données, et du coup bah faut tout revoir. Et ça il l'anticipait pas. Pour lui c'était juste 2-3 petits trucs à changer. Donc d'où l'importance de vraiment travailler cette partie base de données.
Ouais.
Mais globalement, pour rebondir là-dessus, sur la partie spécification, analyse de besoins, d'être sûr de pas mettre les pieds à côté, un des points d'attention, c'est de vérifier qu'on n'a pas de piège ou de trucs qui risquent de sortir en cours de route, qui n'ont pas été bien précisés et qui, des fois, pour le client, sont des trucs complètement accessoires. Pour l'anecdote, régulièrement, ça a été du sujet de prévoir des exports PDF dans certains workflows, quoi. Et on était face à des gens qui trouvaient presque que c'était une évidence.
Ça, c'est le pire. Ouais. Ce qui est évident pour le client.
Voilà. Par moment, ne l'est pas du tout pour nous. Et inversement, des fois, en fait, même s'ils font un cahier des charges, ils vont être extrêmement détaillés et précis sur certaines choses qui, finalement, ont une importance relative pour nous, qu'on va être capable de comprendre assez vite. Et tes points d'attention ne sont pas toujours les mêmes, en fait.
Non, ça c'est difficile, mais c'est pour ça que de toute façon, il n'y a que dans l'échange et avoir cette capacité d'itération. Parce qu'il y a un truc que vous souleviez tout à l'heure qui est intéressant, c'est de se dire, même si vous vous êtes mis d'accord, vous avez bien compris, les clients sont bien exprimés en cours de route, le fait de faire et de faire tester finalement aux utilisateurs finaux, peut-être va introduire ces pivots, comme tu disais. C'est un peu l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Et ça, c'est tout à fait OK. Ça, je veux dire, ça fait partie de la vie d'un projet.
Exactement. C'est une erreur. Il faut qu'on soit pleinement en mesure de l'accueillir.
Ouais, voilà. Une des capacités d'une agence, je pense, c'est de savoir bien réagir face à ça, quoi.
Toi, même dans notre modèle de facturation, on permet cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fait, on dit déjà au client, en fait, on va te livrer le projet. Mais sache que, en fait, tu vas avoir besoin de faire améliorer des petites choses, mais qui vont être peut-être insignifiantes. Et en fait, on va pas te réattribuer une facture juste parce que tu me dis, tiens, il faut faire ça. En fait, on leur dit, t'as un crédit, tu utilises ce crédit-là. Et en fait, ça te donne l'opportunité de pouvoir améliorer, parce que c'est vraiment dans la nature du no-code. Donc, si on le faisait pas, ça donnerait pas l'opportunité.
Alors, dis-moi un peu plus là-dessus. Donc, si je viens vous voir, je vous demande un projet, vous faites un forfait, vous me dites, on parle bien, vous avez bien compris, bien cadré. Vous faites un forfait et après vous prévoyez de l'argent en plus pour les itérations ou c'est comment?
Vas-y, je t'en prie.
Il y a plusieurs. Il peut y avoir plusieurs approches suivant la manière dont on vient nous voir. Certaines personnes arrivent nous voir parce qu'on est identifié chez Glide dans la communauté. On est experts tous les deux. On est une agence Glide vraiment identifiée. Et on a des gens qui viennent de plusieurs endroits dans le monde, en fait. Trouver exclusivement pour ça. Donc, c'est génial, c'est hyper enrichissant. Il y a des trucs, on n'y croit même pas, quoi. Et là, pour le coup, on a une approche plutôt d'être un peu plus prestataire. Si on est plutôt à l'initiative de projet, on est allé à la rencontre du client, on est allé analyser le besoin et on les accompagne un peu plus globalement. Souvent, ce qui est important pour eux, c'est qu'on ne soit pas juste là pour shipper une V1, de les rassurer en disant qu'en gros, on sera là en fait, pour la vie du projet. Et là, pour le coup, en fait, notre modèle économique, il comprend ça. Et dans un certain nombre de situations, quand on agrège plusieurs briques avec plusieurs outils no-code aujourd'hui, on trouve qu'il y a une bonne réponse sur le fait de proposer un package all-in-one avec nous comme point d'interlocuteur unique. Parce que par moment, les clients en fait, veulent la solution finale et de savoir comment on l'a construite, avec quels outils, quels microservices on utilise dedans. Donc c'est pas forcément le sujet, et ça peut amener une certaine complexité aussi. Donc
vous, par exemple, vous prenez à votre charge le compte Glide, peut-être les automatisations dans Make,
c'est ça.
Et puis il y a une facture. Mais alors du coup, comment vous gérez, par exemple, je sais pas, je vais dire un truc bête, mais je trouve ça un point qui est hyper intéressant. Je sais pas, admettons, il y a un mois où le projet explose et ils explosent leur plafond d'automatisation dans Make ou un truc comme ça, quoi.
Ouais, alors ça, sur la partie Make, en fait, on n'a jamais eu encore de projet où on savait qu'il y avait une consommation qui pouvait être considérable.
D'accord, ok.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours, toi, par exemple, c'est une personne qui va générer un PDF. Donc du coup, tu sais que maximum par jour, elle va avoir deux clients. Et donc du coup, à la fin du mois, ça reste super cohérent.
Okay.
Donc, et si c'est le cas, en fait, on met des jalons. On indique qu'en gros, on leur alloue un crédit sur nos forfaits qui est de temps, sachant que l'idée, c'est plus de se baquer. On n'est pas chiant. Toi, s'il y a un mois où il dépasse et que l'autre client ne dépasse pas, pour eux, c'est gagnant. Parce que
vous mutualisez, en fait.
Exactement.
Quelque part, vous avez peut-être, disons 100 000 opérations par mois, et puis tous vos clients sont dessus. Et puis,
tout à fait ça. Et en fait, eux, ça leur permet aussi de pouvoir s'extraire de toute cette partie outillage qui les intéresse pas du tout et qui est même un point de tension sûr, pour eux. Et puis de bénéficier aussi d'avoir les meilleurs forfaits parce que pour le coup, par exemple, sur Glide, on leur fait bénéficier aussi de tout ça.
Ouais, ça c'est intéressant.
Ouais, parce que ce qui est intéressant sur l'évolution du système d'abonnement et de pricing de Glide, c'est qu'ils ont, ils ont fait un shift assez important il y a déjà quelques mois en basculant en mode team.
Ouais.
Et en mode multi-projet, ce qui n'était pas forcément... Avant, il y avait un pricing par projet. Et là, aujourd'hui, en fait, dans une team, on peut construire un certain nombre de projets.
Ouais, donc
que ce soit en Glide Pages ou en Glide Apps, en fait.
Mutualiser donc ça sur votre compte à vous. Ouais. Même pour le maintien...
Pour la supervision, c'est génial.
Ouais, c'est génial. Et alors du coup, parce que ça, c'est un peu un truc que je vois assez souvent, c'est qu'il y a un peu cet espoir avec les outils no-code et notamment avec Glide que les clients pourraient avoir de se dire « Bon, ils me livrent et puis après, moi, je me débrouille. »
Oui,
on l'a fait.
Quelle est votre position par rapport à ça?
En fait, on est très clair dès le début. C'est qu'on explique les chemins possibles avec nous ou sans nous. C'est-à-dire qu'on peut... Là-dessus, le but, c'est pas de mettre les clients en prison, de les loquer, enfin...
Ce qui est un peu
avec nous,
le modèle un peu des agences traditionnelles, tu vois, quelque part. Mmh. En tout cas, qui se privent pas de te faire facturer je sais pas combien pour changer une virgule sur ton site web.
Voilà.
Alors, du coup, nous, on l'a testé. On a shippé un projet en janvier dernier. Et puis deux jours après, on a la personne qui nous rappelle en disant « J'ai tout pété. »
Ouais, j'imagine.
Et donc, du coup, maintenant, on donne cet exemple-là. On laisse le choix au client, mais à 99% des cas, ils disent non, je veux pas rentrer dedans. Il y a un petit truc. Et en fait, ce petit forfait aussi qu'on ajoute pour aller faire des modifications, aller changer une virgule de ça. Mmh. Et en fait, aussi, on a l'occasion de pouvoir rajouter des entrées d'administrateurs dans l'application. Donc, tu vois, si par exemple, c'est le titre de l'application qui va changer régulièrement, on va ouvrir un menu. Quoi.
Vous essayez de gérer ça.
Ouais. Parce que clairement, nous, dans la qualité de la relation. En cours de projet avec les clients, on trouve qu'il y a énormément de valeur à pouvoir leur dire on est là. Et s'il y a une toute modification qui nous prend 2 minutes à faire, parce que l'outil est top et que ça nous permet de le faire, c'est pas cohérent d'aller les matraquer à ce moment-là. Et du coup, par contre, on leur démontre qu'on est là et qu'on est capable de faire évoluer et de prendre en compte des petites demandes. Alors, ça en général, c'est pas des grosses refontes ou des. Là on est sur des choses de l'ordre du tuning et du fait d'affiner des fonctionnalités, mais c'est plutôt bien vu de la part des clients et là aussi l'autre effet c'est que quand on reste comme ça au cœur des projets bien souvent les projets grandissent en fait, et là on a plusieurs exemples de projets qui passent en phase 2. Ils ont été contents, ça a mûri, ils ont retrouvé des budgets, il peut y avoir plusieurs situations.
Ouais, tu vois, moi je trouve que ce fonctionnement, il est sain, tu vois, c'est-à-dire pour les entreprises, et après ça dépend des types de clients finalement, mais des entreprises, moi je pense qu'elles ont tout intérêt à bosser avec des agences qui leur abstraient un peu la mécanique, la facturation, les trucs, etc. Parce que ça n'a aucun intérêt quand on est entreprise, on veut juste, comme vous disiez, le profit. Par contre, des porteurs de projets qui peuvent avoir un peu cette tentation de dire « Ok, je les paye pour qu'ils me fassent le truc et puis après, moi, je vais le maintenir. » Moi, je pense que ceux-là, je pense que ce n'est pas forcément des très bons clients, ce n'est pas pour stigmatiser, mais autant qu'ils se forment et qu'ils fassent eux-mêmes dès le début. Quoi. Mmh. Ou alors, et c'est là où il y a le truc un peu entre les deux, il y a le coaching. Je ne sais pas si vous proposez des choses comme ça ou quoi, peut-être pas forcément cohérent le truc d'agence, mais je veux dire, de faire, mais avec quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule, qui est un expert Glide, par exemple, et puis qui t'aide, tu fais toi-même, mais tu pars pas dans le décor. Quoi.
On l'a fait dernièrement, parce qu'en fait, on a eu des demandes un peu de ce type-là, et finalement, on a testé, et ça a plutôt très bien marché.
C'est vraiment du test and learn, mais on voit que ça marche pas mal pour certaines typologies de personnes.
Ouais. Mais je pense que ça, c'est pas des entreprises qui veulent bosser avec vous, à mon avis.
Non. En fait, il y a un gros sujet qui revient, c'est en disant je peux le faire moi-même, mais quelque part, je vais aussi me détourner de mes tâches de tous les jours et je peux y passer beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais.
Et même sur des porteurs de projets, il y en a, en fait, je suis en train de me cramer à juste faire du produit. Bien sûr, et c'est un peu le problème, c'est qu'on voit aussi beaucoup qu'il y a des produits qui sont faits et en fait, ils sont jamais sur le marché parce qu'en fait, c'est de l'énergie d'aller commercialiser une solution.
Bien sûr.
Et ça, c'est sous-estimé, en fait.
Ouais. Oui, non, voilà, tu vois, à la limite, les porteurs de projets, comme ça qui ont bien compris que eux ils mettront pas les mains dans la technique et eux ils s'occupent du marketing, de l'admin, etc. Je veux dire, cela pour moi c'est une TPE quoi, c'est quelqu'un qui a compris que ils vont faire appel à un prestataire et eux ont tout intérêt à bosser avec une agence ou avec un freelance, mais en essayant pas de mettre les mains dedans quoi, et en essayant de s'abstraire, parce que donc, tu lances un projet, il y a beaucoup de choses à faire quoi. Donc bon, après, voilà, après, il y a plein de cas de figure, il y a plein de trucs au milieu, et le no-code donne un peu de latitude, mais je trouve ça assez intéressant. J'ai une dernière question sur Datapix, puis après qu'on parle un petit peu quand même de Glide. C'est un peu sur votre fonctionnement. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous vous organisez. Vous avez évoqué un peu des choses, mais vraiment sur le côté interne, quoi. Enfin, déjà un petit peu vos outils, parce que vous avez des petites applis Glide pour vous organiser. Aussi avec l'équipe, donc vous avez une alternante, puis j'imagine que vous bossez aussi un peu avec des freelances. Enfin, je sais pas, un petit peu, voilà, tout ça, le...
C'est moi qui prends la parole. Du coup, au niveau de l'organisation, on est séparés, Vincent et moi, sur les grandes verticales. Okay. C'est-à-dire qu'on a chacun une action sur, moi plutôt sur la partie événementielle, parce que du coup, je viens du monde du marketing, c'est un monde sur lequel je suis assez à l'aise. Et Vincent, sur la partie outils métiers, bah parce que
voilà,
il y a plus de process.
Non, mais c'est intéressant que comme vos backgrounds se répercutent là,
ouais. et on voit que ça, on gagne vachement en efficacité depuis qu'on a fait ça. Stéphanie, elle est transverse à nous deux, ouais. Donc il y a de l'arbitrage par rapport au projet, par rapport aux outils. En fait, on a des outils sur Glide qui nous permettent, tu vois, par exemple, il y avait un sujet, ça fait partie des process, et notamment grâce à The Toolbox qui avait commencé à mettre ça en place, c'est un dashboard pour que les clients suivent vraiment bien le temps passé sur chaque tâche et tout ça.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis en place dès le début et qu'on a mis en place et ça a permis, par exemple, de créer des devis additionnels juste parce que le client comprenait, ah ouais, vous avez passé tout ce temps-là. Donc, tu vois, par exemple, il y a une interface sur Glide qui est là-dessus et donc, du coup, en fait, le risque, je dirais, de ça, c'est que quelquefois, on a eu peut-être tendance à trop se créer nos outils, alors qu'un bon outil sur étagère, ça peut être pas mal.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, on est justement en train de faire le tri un peu sur qu'est-ce qui repasse sur étagère aujourd'hui et qu'est-ce qui ne le passe pas. Notamment, tu vois, je peux te donner la facturation.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Je sais pas pourquoi j'allais prendre cet exemple. Mais alors, qu'est-ce que vous utilisez
par exemple ? Facturation, c'est un peu le sujet du moment. Donc, aujourd'hui, on consulte, on regarde, on écoute, on essaie de choisir.
On avait
fait
des choses par nous-mêmes, toi, mais en fait, même dans le suivi et tout, en fait, on se dit aujourd'hui, c'est un sujet avec Vincent et moi, c'est un point de douleur parce que c'est chiant de faire une facture, hein, dans le même contexte. Donc, comment on peut simplifier le plus facilement la vie et comment on peut l'automatiser aussi. Alors, c'est un peu la grande question dès qu'on voit un outil, c'est est-ce que ça peut se connecter à Make, est-ce qu'il y a une API.
Ouais, bien sûr.
On challenge un peu ça avec les outils aujourd'hui. C'est
on voit ça même avec la partie bancaire, là, on essaie de trouver le.
Ouais, c'est ça, parce que t'as
idéal pour. Fonctionner en environnement multibanque et d'avoir en temps réel tout ce qu'on veut.
Le sujet de la banque et du no-code, c'est un gros sujet, je pense que...
Ouais, c'est un gros sujet. En même temps, après, tout le monde ne peut pas aller chez Conto, mais moi, je trouve que Conto, là-dessus, est vraiment largement en avance sur toutes les banques. Enfin, c'est pas pour leur faire de la pub spécialement. Ah, cet accident. Mais je trouve que là-dessus, ils sont vraiment, vraiment en avance, quoi.
Bah là, du coup, là, nous, on est passé chez Pléo. On était targeté.
J'ai entendu parler.
Une banque qui donne accès à son API aussi. Alors, on ne peut pas faire de virement, c'est vraiment juste sur de la dépense avec sa carte bleue. Hop, tu reçois une notification et en fait, derrière, on a un flow d'automatisation qui nous récupère ça dans du Airtable avec tous les justificatifs. Et ça part acquis de droit automatiquement.
Ok. Et juste par curiosité, pourquoi vous n'avez pas pris Conto? Enfin, non, là, on dirait que je bosse chez eux.
Alors, en fait, l'histoire, c'est création de la société avec une approche assez light. On est parti chez Shine.
Ouais, ok.
C'était le point de départ. Après, structuration de l'entreprise nous a fait passer par des acteurs traditionnels.
Pour les dépôts de capital et choses comme ça.
Non, là c'était possible avec Shine, mais en fait déjà dès l'association, en fait, on a vu que les banques en ligne proposaient plus cet accompagnement autour de l'augmentation de capital quand à l'époque on s'est associé.
Ouais.
Et puis on s'est dit il nous faut un partenaire, ça nous l'a aussi beaucoup conseillé, plus institutionnel parce que vous allez avoir besoin de partenaires. Parce que vous allez aller de demander de l'argent par exemple et que aujourd'hui c'est un chemin. Donc en fait
Et puis même, du coup, en plus, ce partenaire en local nous apporte une certaine visibilité, fait parler de Datapix en local. Et donc ça, c'est pas inintéressant quand même pour une jeune société. Voilà. Et puis après, il y a tous des enjeux d'aller chercher de l'argent et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant d'avoir un...
Juste pour illustrer ça, on a eu un focus assez important sur le fait de se faire identifier, de rentrer dans certains réseaux. On a mis 6 mois pour devenir, comme disait Emery tout à l'heure, lauréat du réseau Entreprendre. C'est des marques de confiance qu'on est allé chercher vraiment, quoi, qui vont nous servir, hein, qui nous servent déjà aujourd'hui. Et c'est hyper important. Et du coup, bah, en fait, on est obligé de se plier à certaines.
D'accord, ouais,
on reste pas que dans les outils de dernière génération. Ouais. On a besoin d'aller se coupler, entre guillemets.
C'est un témoignage intéressant. Hein. Enfin, moi, je trouve que d'un point de vue entrepreneurial, tu vois, c'est important de souligner ce genre de choses. C'est pour ça que je creuse un peu la question, parce que je me dis, il y a forcément une raison, tu vois. Et c'est cette raison. Elle est,
ah bah, le conto, hein, il nous fait rêver et tout ça. Donc là, tu vois, on a trouvé un truc un peu entre les deux qui nous permet de pouvoir faciliter.
Ouais.
Mais aujourd'hui, le problème, et on en parle, parce qu'en plus, on est incubé dans une banque. Donc, c'est des conversations qu'on a souvent avec eux et on leur dit en fait, nous, on est des acteurs, il faut pouvoir nous parler, en fait, ouvrir des API.
Ouais, c'est clair.
Il nous faut des points de sortie, quoi.
Ouais.
Et malheureusement, les grands acteurs français de la banque sont plutôt hermétiques.
Ouais, après, il y a des enjeux de sécurité, etc. Mais c'est vrai que ouais, ils sont très, très, très lents. Hein. Bon, bref, on va pas. On pourrait parler longuement des banques, mais. Écoutez, c'était hyper intéressant. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur DataPix
Juste pour parler des tools, en fait, dernièrement, on a mis en place Pipedrive.
Ouais, ok, c'est
la partie amont, processus de vente, parce qu'en fait, on a dans l'équipe des gens qui sont venus récemment nous filer un petit coup de main pour développer des choses plutôt au niveau commercial. Donc là, on va avoir un focus avec une énergie commerciale assez forte.
C'est quoi un peu, ouais, peut-être pour finir, justement, c'était ce que je t'ai donné, un peu votre roadmap, un peu comment vous voyez. Donc là, on est au moment où on se parle, fin septembre 2022. Quoi un peu le développement que vous aimeriez, que vous prévoyez, enfin.
Là, il y a un gros focus sur cette partie commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nos verticales qu'on a évoquées précédemment. Aujourd'hui, on veut avoir un pipe commercial qui grandit pour pouvoir déclencher des recrutements et réussir à avoir une équipe qui va grandir. Et je pense que c'est un peu l'enjeu. Au début, on a peut-être un petit peu tâtonné à faire les premiers recrutements. Là, on est dans une dynamique aujourd'hui où on y va. Donc du coup, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de structurer. Parce que on va continuer à avoir ce positionnement d'agence. Dans l'Ouest, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire.
France, pas tant que ça. En tout cas, avec cette approche.
Dernièrement, par exemple, on a pas mal parlé avec des gens des dispositifs d'accompagnement du type BPI. Ouais. Et aujourd'hui, on regarde du côté des dispositifs innovation. Alors c'est marrant, certaines personnes dans les réseaux considèrent que le no-code est déjà tellement une valeur ajoutée que en fait ils interrogent la question de l'innovation au regard du no-code par rapport à l'entrée dans les dispositifs, parce que en fait on n'a pas forcément de mettre en place des démarches, d'aller s'associer à des labos de recherche ou à faire des trucs avec un risque technologique extrêmement fort.
Ouais.
Et là il y a un petit prisme, mais bon, on est en train d'y arriver là. On a bon espoir.
Ouais, c'est intéressant.
Donc l'idée c'est d'avoir de développer un peu en interne, en tout cas d'améliorer notre capacité à être entre la veille, la recherche et développement, et de pouvoir aller tester des choses, devenir encore plus performant sur la sélection d'outils, sur le fait d'aller tester ou prototyper encore des choses.
D'ailleurs, on a justement, après je voulais parler un petit peu de Glide, et là on a un peu parti du principe que vous travaillez principalement sur Glide, mais je sais que vous vous intéressez pas mal à WeWeb aussi, enfin c'est quoi un peu le...
On est certifié sur WeWeb, donc on a fait pareil, partie du premier badge de certification. Ouais. Aujourd'hui, pour être honnête, on n'a pas encore vendu de projet sur WeWeb. La façon dont on le voit avec Vincent, c'est qu'en fait, on peut itérer au sein des produits, mais on peut aussi itérer sur les produits. Donc l'idée, c'est que dès qu'on fait rentrer des projets, en général, on les fait rentrer sur Glide, parce que à 99%, ça passe et c'est... Ouais. assez scalable pour les enjeux. Mmh. Et en fait, à tous nos clients, on leur dit que... la prochaine itération sera du WeWeb, surtout que WeWeb, ils ont quand même vachement travaillé toute leur partie composants déjà préfaits et tout ça. Et donc, du coup, nous, c'est aussi une des parties pourquoi Glide, on l'aime autant, c'est que on ne va pas passer beaucoup de temps. Je crois que c'était Julien Mottet qui disait que c'est 30% de plus de facturation quand on fait du design, on va travailler du design sur un projet.
Ça,
et que je trouvais que c'était hyper intéressant comme réflexion. Et du coup, nous, on part un peu de ça avec Glide. En fait, ce n'est pas un sujet. Et en fait, WeWeb, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a des composants qui sont existants et aujourd'hui il n'y a pas besoin de faire non plus beaucoup de paramétrage pour pouvoir arriver à quelque chose de concluant. Ouais. Donc il y a cet outil là et puis Make. En fait aujourd'hui on est vraiment sur ce triptyque là.
Ouais. Vous êtes certifié aussi, non? Toi,
ouais, on est partenaire.
Ouais, partenaire, ouais. Ouais. Oui, il n'y a pas vraiment de certification,
non.
Mais
voilà, on est partenaire avec eux. Ouais.
Et du coup, on observe vraiment une belle tension sur Make et du coup, on a des demandes récentes sur. les entreprises qui viennent nous voir pour voir si on peut les aider à exploiter en fait.
La chose utopique, c'est que c'est des entreprises qui font des solutions sur étagère qui nous demandent de faire du sur-mesure pour leurs clients.
Ok.
Voilà, des systèmes de notification particuliers, des trucs comme ça.
Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est un vrai usage du no-code en général et d'outils comme Make et Airtable, c'est de compléter des. Y avait un exemple comme ça de Lorraine chez Granite, donc une start-up qui fournit un logiciel SaaS pour le BTP. Mais elle, son métier quasiment, c'est d'utiliser des outils no-code pour compléter les features qui manqueraient dans le produit. Pour certains clients que tu vas gagner que si t'as tout, parce que sinon surtout là c'est du B2B, donc ouais. Genre si t'as pas tout ton truc sur l'étagère et ça c'est assez intéressant et qui passe par, donc là c'était un exemple interne, mais ça m'étonne pas aussi, que je trouve ça assez intéressant et je pense que ouais, Make souvent est très bon là-dessus parce que c'est souvent des choses plutôt en back-end
ouais.
Ouais, non, c'est marrant. Non, mais en fait, je réfléchis parce qu'en même temps, au moment où on enregistre, Make est en train de subir encore, je sais pas, une attaque de déni de service distribué, que c'est pas très cool.
Non, pas du tout.
Mais ouais, donc, mais c'est un super outil. Hein. Ils seront d'ailleurs le cofondateur et demain au No Code Summit, j'ai vu.
Ouais.
Moi, je suis curieux. Moi, c'est un outil. Bon, moi, j'adore Zapier aussi, donc je suis un peu partagé, mais je trouve que c'est juste deux outils qui devraient pas être en compétition. C'est deux choses différentes, quoi. C'est deux approches différentes de l'automatisation. Sur Glide, pour finir un petit peu, parce que je saisis quand même l'opportunité, comme vous êtes des experts. Bon, déjà, en fait, on en a beaucoup parlé au final, un peu en fil rouge. Moi, j'ai envie de savoir, du coup, qu'est-ce qui vous manque dans Glide? Parce que vous l'utilisez énormément. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous manquent? Est-ce que c'est quoi un peu les limites pour vous?
Il y en a plein, en fait. On est en contact pas mal avec les équipes et avec la communauté d'experts. Donc, on voit, en fait, tous les trous dans la raquette, toutes les choses qu'on aimerait avoir, tous les features supplémentaires. Il y en a un certain nombre.
En fait, je pense qu'une des choses qui nous manque, c'est que quelquefois, on veut des composants qui sont un peu spécifiques. Et du coup, on ne les a pas. On sait qu'ils sont en train de travailler un peu, alors sans ETA de livraison, mais ils sont en train de travailler sur le fait qu'on puisse créer nos propres composants.
Okay.
Et ça libérerait. Alors, je pense que c'est aussi une des forces de Glide, c'est de pouvoir travailler sous contrainte. Donc, du coup, d'avoir des produits qui sont toujours super stables et tout ça. Peut-être que s'ils ouvrent ça le sera un peu moins. Mais par exemple, nous, on a des clients qui sont en attente parce que y a une des fonctionnalités qui est pas complètement comme ils voudraient, et donc là ça nous permettrait de pouvoir y répondre. Donc je pense qu'il y a une petite frustration par rapport à ça, même s'ils ont intégré le fait de pouvoir aller externaliser avec du low code certaines parties.
Ouais.
Et donc du coup de faire un peu du sur-mesure
sur on va pas refaire toute l'histoire de Glide, hein. S'il y a des gens qui écoutent qui connaissent pas Glide, je les invite à écouter l'épisode que j'avais fait avec Stan il y a longtemps, ou vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais donc voilà, là c'est un peu, je profite du fait que vous soyez un peu avancé pour discuter un peu de choses comme ça. Mais donc cette logique de composants, pour les gens qui sont pas forcément familiers, c'est quand on construit son application dans Glide, on va drag and dropper c'est pas vraiment du drag and drop d'ailleurs, on appuie sur les composants et puis ça va ajouter des cartes, des menus, des boutons, un petit peu tout ça, quoi. Et donc vous, ce qui vous manque, c'est certains composants peut-être plus spécifiques. T'as un exemple?
J'ai un exemple qui revient assez régulièrement, c'est le voice recorder un peu à la WhatsApp.
Ouais, okay.
Je pense qu'on me l'a demandé 200 fois, l'ai demandé un milliard de fois à Glide.
Donc pouvoir enregistrer des audios dans son appli.
Ouais. Exactement.
Et ça c'est drôle parce que, alors j'ai une petite anecdote, j'ai profité parce que c'est un truc qui manque tellement, je trouve, que moi en fait j'avais fait un projet, j'avais une idée comme ça de projet et j'ai fait développer cette fonctionnalité dans Adalo. J'ai un module qui est privé, que je n'ai jamais partagé, mais que j'ai fait développer par des devs en Moldavie. C'est là que j'ai trouvé, mais qui était super bon. Et voilà, et c'est vrai que ça, le jour où il rajoute ça, moi je vais pouvoir enfin vraiment aller au bout de ce projet-là.
Écoute, on déjeune avec eux ce midi, donc je pense que je veux dire que le besoin n'est finalement pas que de moi, mais...
Ah oui, non, ça tu peux leur dire, franchement, parce que...
Parmi les experts, en fait, il n'y a pas eu... la demande qu'on a faite n'a pas forcément été suivie par beaucoup d'autres, donc en fait...
Non, mais surtout, on est tributaire un peu des usages que les gens peuvent avoir sur différentes plateformes. Donc typiquement, WhatsApp, tout le monde l'utilise en voice.
Ouais.
Et du coup, tout le monde...
Les jeunes, non,
oui.
Vous faites beaucoup des vocaux. Moi, j'y suis mis récemment, mais pas. Ça me fait encore un peu bizarre. Hein.
Ma femme est à fond vocal, donc du coup, je suis passé au vocal. Et c'est vrai que du coup, on nous impose ce genre de choses quelquefois en disant je l'ai sur WhatsApp, je comprends pas pourquoi je peux pas l'avoir dans mon application Glide.
Ouais, non, je comprends. Ouais.
En autre features qu'on adorerait avoir, c'est une vraie features de chat, globalement.
Ouais, oui, parce que là, c'est.
Et là, parce que là, du coup, il y a un certain nombre de situation, de use case, de demande client qu'on
notamment
peut vraiment pas servir.
Enfin, remplacer Swapcard.
Voilà, on peut changer Swapcard grâce à ça.
Ouais, mais c'est vrai, mais le problème, alors est-ce que vous pensez pas, alors là c'est vraiment dans le détail d'expert, mais est-ce que vous pensez pas que le problème de cette fonctionnalité-là, c'est qu'elle peut pas marcher sans notification? Et comme pour l'instant, en tout cas sur iOS, c'est pas possible d'avoir des notifications. Ça va bientôt arriver.
iOS 16, hein, on attend.
Ouais, c'est vrai que ça arrive.
Ouais. Ça, ils ont conscience que le jour où ça arrive sur les PWA, ils mettent toutes les équipes dev là-dessus parce que je pense que ça va rajouter une plus-value au produit significative.
Parce que ça, c'est un truc quand même qui manque. Enfin, donc quand même, on précise que Glide, c'est pas des applications natives, c'est des applications web, ce qui est à mon avis une force extraordinaire. On flash un QR code, on se retrouve dans l'appli. Franchement, le feeling, moi, je trouve des applis Glide, on dirait du natif, quoi. Enfin, t'appuies sur un bouton, ça slide et tout, je trouve ça hyper agréable. Mais par contre, du coup, il y a quelques limitations, et il y en a une qui est très grosse, qui est depuis des années, hein, depuis moi, je suis dev aussi. Enfin, c'est on peut pas faire de notifications web dans iOS. Et dans Android, bon, ça marche théoriquement, après...
Sur Glide, ça marche pour le moment uniquement sur les commentaires.
Ouais, c'est ça, ils l'ont que mis à un endroit précis, mais bon, ils ont raison parce que quand même, je pense que surtout dans les marchés occidentaux, il y a quand même énormément d'iOS. Et donc, s'ils développaient à fond la fonctionnalité de notification, c'est-à-dire que tu puisses déclencher une notification quand tu veux, que pour une partie des utilisateurs, ça serait trop chiant à gérer, quoi. Je veux dire, t'imagines, toi, tu fais ton appli, mais il y a un truc qui quand même peut être vital, bah, tu le fais que pour une partie de tes utilisateurs, qu'est-ce que tu fais pour les autres, enfin,
ah, tu vois, aujourd'hui, on contourne avec des SMS ou du...
Ouais. Ce qui est bien aussi. Ouais.
Mais
ça, non, mais ça
fait,
coûte.
En tout cas,
les SMS.
On a la demande dans quasiment tous nos projets.
Ouais, bah,
il faut trouver des solutions de contournement avec les gens ne comprennent pas toujours. Donc.
Ouais. Le SMS, je trouve que c'est une super solution. Moi, ça ne me dérange pas de recevoir des notifications par SMS. Le problème, c'est que ça coûte.
Ça coûte.
Donc, ouais. L'émetteur, ça coûte. Quoi. C'est quoi votre use case préféré, je sais pas, pour Glide, enfin, le truc où vous pensez que c'est parfait, quoi. Vous allez dire les événements.
Non, le truc qui est parfait, en fait, c'est le fichier de travail qui est déjà exploité par, en interne, tu vois, dans les entreprises. Globalement, quand tu regardes ce fichier de travail, en général, c'est déjà pensé un peu en base de données où tu as une colonne, un type de champ. Et en fait, juste dire, on va se brancher sur ce fichier Excel et on va... Là où ça commence à être un petit peu la foire d'emplingue parce que tout le monde flingue des cellules un peu comme je racontais tout à l'heure, on va créer des rôles. Et ça, c'est quand même une des grosses forces de Glide. C'est la vitesse à laquelle on peut créer des rôles dans Glide et faire des interfaces qui sont personnalisées.
Et d'ailleurs, en fait, ça va même sur ça remonte sur la question de la relation client. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre discussion, on cherche à aller creuser cet aspect-là des choses. Et on est hyper ravis quand le client, très en amont, nous livre un fichier Excel qui est la source de sa problématique.
Ouais.
Et probablement, on se dit que finalement, c'est le meilleur cahier des charges qui soit pour nous.
C'est marrant parce que du coup, vous êtes quand même très, on va dire, Excel, Google Sheet, quoi, très tableur du coup. Qu'est-ce que vous pensez Airtable ? Non, c'est pas par sens à la question, mais est-ce que vous utilisez Glide avec Airtable ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Alors, on utilise Glide principalement avec Google Sheet parce qu'aujourd'hui, les clients qu'on a sont plus avec une culture Google Sheet.
Ouais.
Donc, ça, on utilise beaucoup le Glide Editor, qui est le tableur interne à... Enfin, la base de données interne à Glide.
Et les Glide Tables, du coup
Glide Tables. Et après, par contre, en fait, Airtable, nous, on peut se connecter, mais en fait, on n'a quasiment pas de clients aujourd'hui qui le font là. Glide, pour demain, nous demande de faire une présentation avec du Airtable. En fait, aujourd'hui... ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà éveillés au no-code.
Ouais.
Et globalement, sur le marché français, il n'y en a quand même pas beaucoup.
Ça, c'est très intéressant comme remarque, c'est vrai. Hein, et du coup, vous n'avez pas forcément intérêt à évangéliser, on va dire, sur deux fronts.
Non.
C'est-à-dire les faire changer de Google Sheet à Airtable et plus leur mettre du Glide par-dessus.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Et c'est marrant, non, mais parce que tu vois, moi j'adore Airtable et je passe un peu ma vie dedans. Mais du coup, tu vois, cette problématique que vous émettez, franchement, on le sait, dans toutes les boîtes, les PME et tout, ils ont tous des Google Sheets, des Excel en vrac. Et donc là, le fait que pour vous, ça soit l'accroche quelque part, je trouve ça assez cool.
En fait, nous, ils vont pas mettre les mains dans la base de données. Eux, ils vont pas utiliser l'interface visuelle pour aller compléter leur base de données. Et donc, du coup...
Vous les débarrasser du Google Sheet. Mais finalement, le but, c'est qu'ils n'y aillent plus du tout. Après.
Oui. Exactement, c'est ça.
Et moi, il y a un truc que... Bon, enfin, je digresse un peu, mais les Glide Tables, je trouve que c'est... franchement, c'est hyper bien, en fait. Je trouve que les gens n'ont pas ça en tête, tu vois. C'est-à-dire que je pense... Enfin, là, je vais le dire pour... Justement, parce que là, on a pas mal insisté sur le côté Google Sheet et tout. Mais moi, je trouve que Glide, aujourd'hui, s'utilise très bien tout seul, en fait.
Du coup,
tu débarques sur Glide, tu fais ta base de données dans Glide. J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est un peu.
Chez nous, il y a un petit débat.
Ouais.
En fait, ça manque, à mon sens, un peu d'ouverture vers d'autres alors, possibilités.
Quand tu dis ouverture, c'est à l'extérieur ou sur ce que tu peux faire avec les tables
De ce que tu peux faire, effectivement. Il n'y a pas, par exemple, de modules dans Make en fait, qui permettent d'attaquer on va dire, plus directement, on va dire, plus simplement. On peut y aller, évidemment, mais en fait...
Est-ce qu'on peut... parce que c'est intéressant, là j'en profite, du coup je fais une petite consultation en même temps, mais parce que moi j'ai fait un projet, donc là j'ai construit une plateforme là, il n'y a pas très longtemps pour une nouvelle activité de contournement. J'ai testé Glide parce que par défaut, j'aurais voulu utiliser Glide, mais par contre, je voulais absolument utiliser Airtable. Ou alors, pouvoir accéder depuis l'extérieur, donc avec Make par exemple, à mes données dans un Glide Table.
Tu veux faire ton get de ta base de données, c'est ça ?
Voilà, parce que moi j'ai besoin, je ne sais pas, tous les matins par exemple, d'aller parcourir la table pour faire, envoyer un email aux gens. Et ça, j'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'il y a
pas. Pour l'instant, il est pas encore.
Le GET, il n'existe pas encore. Il est fortement demandé, mais il est pas encore. Ouais. Tu peux pas récupérer toute ta base de données juste avec un appel API qui va mettre à jour ton Airtable, par exemple.
Ouais. C'est vraiment dommage. Ouais. En même temps, je comprends dans leurs priorités, etc. Et puis, ça leur fait beaucoup de trucs à maintenir. Mais ça, je trouve c'est dommage parce que je trouve que l'éditeur de base de données Glide est quand même sans être Airtable, mais c'est pas leur enjeu, mais est quand même très très intuitif et très agréable à utiliser. Et moi, j'aime bien, tu vois. Et en fait, c'est pour vous amener peut-être sur le dernier point, mais moi, je trouve que les gens sous-estiment énormément Glide. On l'a un petit peu dit au début, etc. Et moi, je trouve que Glide, aujourd'hui, déjà quasiment, et bientôt, sera un compétiteur de Bubble, en fait. Parce qu'il y a tout dedans.
J'avais déjà entendu dire ça, et moi, je suis assez aligné avec toi. Il y a tout en étant certes assez sobre, en fait, sur le nombre de fonctionnalités, mais qui permettent de pouvoir aussi avoir des projets qui se cadrent un peu mieux. Et du coup, juste pour revenir aussi sur la partie Airtable GlideTable et Google Sheet, en fait, je pense qu'il y a aussi une différence de culture, c'est que Vincent, il était très écosystème Google. C'est quelqu'un qui est très fort sur les formules toutes les formules qu'il peut y avoir.
Formule, c'est un intérêt de...
Et moi, pas du tout. Et tu vois, c'est la première chose que Stéphanie nous a dit. Mais du coup, vous connaissez plein de formules. Et je dis non, moi, j'utilise le Glide Editor. Et en fait, dans le Glide Editor, je connais, via des systèmes de relations qui sont finalement quelque part des recherches V, je vais pouvoir aller filtrer ma data et tout ça.
Oui, et puis il y a des trucs, les colonnes là...
spécifiques.
Ouais, où on peut, justement le truc qu'on peut écrire des modules pour faire des traitements dans les colonnes. Oui. Il y a des choses incroyables là-dedans.
Oui, il y a des choses incroyables.
Il y a des choses. Déjà, de base, il y avait des choses que je trouvais chouettes, du calcul de distance, des trucs comme ça qui sont natifs dans Glide. Et là, il y a des choses, mais franchement.
Alors, on réserve une petite démo pour vendredi, justement sur un aspect que nous on trouve tout génial. Cool. De faire une requête API pour aller chercher sur de l'open data, attaquer une base sirène pour aller remonter les data propres à une entreprise et ça se met en place hyper simplement et hyper rapidement et c'est assez canon quoi.
Les équipes de Glide nous ont pas du tout teasé la partie de ce qu'ils allaient montrer comme démo demain. Nous, on a envie de montrer, en fait, justement, se dire, en fait, Glide est quelquefois un challenger de Bubble sur certains aspects, parce que, en fait, on peut aller quand même super loin. Quoi.
En tout cas, pour de l'outillage interne, etc., on vient toujours à ce sujet qui est, à mon avis, en fait, le use case le plus fréquent. Il faut arrêter avec les marketplaces et tout ça, franchement.
Ouais.
On s'en fout, quoi, franchement. Enfin, oui, non, mais il en faut, mais bon, c'est pas le vrai cœur du truc. Et voilà, et c'est vrai que toutes les fonctionnalités de hyper-customisation que peut avoir Bubble, évidemment, sur l'interface, franchement, dans plein de cas, ça sert à rien.
Mais c'est surtout qu'en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir des compétences de web designer pour pouvoir aller faire son bouton et tout ça. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que du coup, il y a un mec qui est super bon, qui est bien meilleur que moi, qui va savoir que quand en mobile, je vais cliquer sur le bouton, même si j'ai un gros pouce, je vais pouvoir cliquer dessus. Et en fait, ça suffit en fait.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord.
Pas besoin d'avoir une réflexion en disant, tiens, est-ce que j'ai mis assez de pixels en hauteur pour pouvoir cliquer dessus quoi.
Et tu vois, c'est pour ça que je voulais utiliser Glide pour ce projet. J'ai dû aller sur Softr parce que pour moi, c'était quand même trop important d'avoir ma base dans Airtable. Et je regrette pas parce que honnêtement, c'était quand même un projet assez complexe. J'ai dû faire des trucs dans Airtable assez avancés. Mais du coup, c'est pas très beau quoi. Je veux dire, je suis lucide là-dessus. Alors, Gaëtan m'aide un petit peu, mais c'est pas très beau, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc où il y a un enjeu vraiment que ça soit beau, même si c'est un truc un peu B2C.
D'ailleurs, c'est toujours. Enfin, je sais pas si vous avez déjà parlé avec Stan, mais c'est quand même assez impressionnant que Glide n'ait pas réussi à intégrer Airtable comme l'a pu le faire Softr. Softr, en fait, c'est assez fluide aujourd'hui. Glide, ils utilisent, quand tu rajoutes de la donnée, ils utilisent des colonnes spécifiques pour aller rajouter cette donnée. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. C'est pas la même.
C'est ça qui a fait. Ouais, enfin, je l'ai pas dit, mais du coup, je pouvais pas utiliser Glide et Airtable parce que pour moi, c'était pas assez. L'intégration n'est pas assez avancée. Alors, apparemment, ça a un peu évolué depuis. Mais après, le truc, c'est qu'ils doivent maintenir quand même plusieurs. Là où Softr a fait le choix, alors ils ont annoncé qu'ils allaient supporter Google Sheets, je crois que c'est toujours pas le cas, mais ils se concentrent sur Airtable et ils ont raison quelque part, je pense. Un peu, je pense. Je pense que ceux qui ont le mieux intégré Airtable, c'est WeWeb quand même. Ça, c'est eux qui sont allés le plus loin dans la connexion, sur tous les niveaux de profondeur, etc. Enfin,
après, le truc, c'est que tu dois aller refresh la data et ça, en renvoyer des requêtes sur chaque petit truc. Et donc, du coup, l'API de Airtable a certaines limites par rapport à ça.
Ouais, ça, c'est un autre. Ouais. C'est clair. C'est vrai. Tu voulais rajouter quelque chose, Vincent?
Non, enfin, juste, on parlait tout à l'heure de raisons pour lesquelles aussi on reste sur certains projets assez, assez branchés sur Google Sheets. Ouais, moi, j'ai un background à fond là-dessus et je fais du code, je fais beaucoup d'apps-script. Et dans un certain nombre de cas, ça me rend pas mal de services. Donc finalement, c'est le petit touch.
Ouais, bien sûr.
Ça nous a fait gagner pas mal de temps sur certains projets.
Ouais. Donc comme quoi, effectivement, l'approche un peu plus low-code, là pour le coup, c'est aussi une façon d'y répondre.
Il faut pas la négliger. Et c'est vrai que il y a quand même un pas, parce que intuivement je te dirais, tu pourrais développer des scripts pour faire des colonnes. Sauf que bon, là, il faut aller dans du TypeScript, il faut aller, c'est quand même un langage de programmation. Enfin, si t'as l'habitude, surtout, c'est pas si différent, mais bon, c'est quand même pas la même chose que AppScript et ce dont t'as l'habitude, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai une dernière question pour. On a complètement explosé. Je vous avais dit, on va faire après une heure et demie après, mais en même temps, c'est une belle discussion. On va finir avec une dernière question que, en fait, j'avais noté depuis le tout début, que j'ai failli partir dessus direct, mais c'est, est-ce que, toujours un peu dans cette lignée avec Glide, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que Glide est moins accessible qu'avant aux gens? On parlait de quand vous avez découvert, et nous aussi, Glide en 2019, puis après le confinement, etc. Tout le monde faisait des petites applis, chargeait son Google Sheet et tout, et en 5 minutes, il avait son appli. Est-ce que, alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est certes toujours possible, mais quand même, l'interface est devenue beaucoup plus puissante, au point que on en est à dire, c'est un compétiteur d'Airtable. Mais est-ce que vous trouvez, et c'est une question honnête, hein, parce que peut-être on pourra avoir l'impression que je donne la réponse dans la question, mais j'utilise beaucoup moins Glide, mais est-ce que c'est pas moins accessible qu'avant? Est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu cette magie, ou je sais pas?
Non, moi je pense que sur les fondamentaux, sur la promesse initiale, je pense qu'on reste assez proche de. Il y a un certain nombre de features en fait qui sont venus se rajouter, hein. Mais frontalement, j'ai la sensation que c'est pas. Ça n'a pas compliqué l'interface de développement, c'est des features qui sont plus cachées en fait, sur lesquelles on peut avoir un accès, mais. Voilà, ça vient pas impacter frontalement et créer en fait cette impression que c'est un outil qui est extrêmement complexe. Ouais.
Moi, je pense qu'en fait, les équipes de Glide, elles sont tiraillées. Parce qu'elles annoncent 1 milliard de développeurs, enfin, c'est un peu leur vision.
Ouais.
Et donc, du coup, ils doivent rester sur du simple. Et je pense que David, demain, va nous présenter ça, un outil qui est super simple, plug and play, ça. Après, ils ont une communauté d'experts et ils ont des entreprises qui sont intéressées par leurs produits, mais qui les changent beaucoup par rapport aux fonctionnalités. Et donc, du coup, pour pouvoir répondre, eh ben, ils sont obligés de rajouter des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités qui sont plus développées. Donc, nous, ça nous fait notre plus grand plaisir parce que, du coup, ça nous permet d'ouvrir des nouvelles opportunités. Et je pense que sur cet aspect-là, tu vois, dans la troisième phase de démo qu'on va faire pendant le No-Code Summit, eh ben, ça va être des choses qui sont beaucoup plus avancées et qui sont méconnues du grand public, en fait. Mais c'est aussi cette force de Glide qui fait que c'est aussi un challenger de Bubble sur certains aspects.
Ouais, non, c'est intéressant parce que tu vois, je me faisais la même réflexion avec Airtable où pareil, il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités, donc forcément l'outil devient de plus en plus complexe, et en même temps je trouve qu'ils arrivent toujours à contrebalancer ça avec de l'UX. Enfin, j'ai parlé pas mal de fois récemment, mais toujours voilà, la petite fonctionnalité qui va simplifier un peu la vie aux débutants et puis qui n'enlève rien à un usage plus avancé. Et Glide, je pense, est pas mal là-dedans, mais c'est peut-être aussi leur enjeu futur. C'est-à-dire, ils avaient un outil très simple, ils y ont ajouté beaucoup de fonctionnalités pour qu'ils deviennent puissants. Je dis pas compliqué, hein, c'est pas puissant. Et maintenant, c'est comment on réconcilie les deux, quoi. C'est-à-dire, comment on revient quand même un peu à cette grande accessibilité, qui ne sont pas complètement perdues, mais bon, forcément, plus tu ajoutes des choses, plus. Mais bon, ils sont quand même bons en UX, hein, je trouve.
En fait, je pense que globalement, nous on est. Voilà, on n'a pas tous les chiffres, on ne connaît pas le nombre de gliders. En France ou même ailleurs dans le monde, on sait qu'en France, en tout cas, on est une belle communauté, on fait partie des pays les plus dynamiques. On va voir si demain, il nous donne quelques informations là-dessus.
Ce soir, faites le boire un peu. Là,
mais du coup, c'est un des outils qui est devenu extrêmement populaire dans le monde de l'éducation. Le nombre d'enseignants qui s'en saisissent est absolument incroyable. Je serais intéressé de savoir si on a la même chose sur d'autres plateformes.
Et puis,
j'ai pas la sensation.
Ils vont se faire un petit peu rattraper par aussi les investisseurs et tout ça. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'ils vont avoir besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires. Et c'est pas monsieur tout le monde qui a un abonnement gratuit qui leur fait gagner du chiffre d'affaires. Donc, et ces personnes-là utilisent la partie, je dirais, peut-être un petit peu light de Glide. Ouais.
Est-ce que, parce que c'est marrant, tu soulignais un truc, c'est vrai, j'avais oublié, c'est dans leur tagline peu là sur le site, c'est 1 milliard de développeurs d'applications.
C'était leur moto initiale en fait, c'était vraiment là. Et je pense que David, le CEO en fait, est vraiment très aligné avec cette vision-là, c'est vraiment le truc qu'il veut accomplir.
Mais alors du coup, tu vois, c'est là où il y a, parce que du coup, je sais pas forcément ce que tu avais en tête quand tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est 1 milliard? C'est des gens, monsieur tout le monde, ou est-ce que c'est 1 milliard, ils vont les chercher dans leurs entreprises? Tu vois, puisque... parce que...
Je pense qu'il y a un flou, c'est 1 milliard de gliders, en fait.
Limite... tu vois, je veux dire, ok, tu vois, mais c'est une ambition. C'est
aujourd'hui, monde, ce qui est plutôt dans nous, même dans les discussions qu'on a avec eux, on challenge un peu cette partie-là de dire, il faut que la plateforme, elle adresse les entreprises, éventuellement par le biais d'agences, il faut que cette chaîne de valeur, alors là, elle nous sert, nous.
Ouais, mais ça, c'est évidemment, monde plus restreint,
tu vois. Mais il y a vraiment l'autre côté des choses du citizen maker, l'outil accessible pour tout le monde, que n'importe qui se saisit, à tel point qu'on pourrait même considérer que ça fait partie du toolkit numérique de monsieur tout le monde, de savoir utiliser des outils de ce type-là, quoi.
Mais tu vois, c'est marrant parce que là-dessus, je trouve que... Non, mais je sais pas, hein, c'est entièrement, c'est pas du tout un jugement, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, là, on creuse un peu ça. Par exemple, Bubble, tu vois, Emmanuel, il a déjà dit, lui, il veut que ça soit, dans 10 ans, c'est PowerPoint des applications. Donc, eux, c'est monsieur tout le monde. Ils s'en foutent que, enfin, qui que ça soit qui utilise, ils ont aucun... Ils veulent que tout le monde utilise, en fait, entreprise. Là-dessus, ils sont très... Et alors, je sais pas si c'est... Est-ce que tout le monde peut utiliser Bubble ou pas? Bon, après, c'est formation et tout, quoi, c'est un autre sujet, mais... Alors que Glide, c'est évident que c'est possible, que tu vois, que on l'a vu, plein de gens se sont saisis de Glide très rapidement, et donc, je sais pas, tu vois, c'est
oui,
un peu...
Oui, c'est vrai que peut-être que cet objectif paraît plus réaliste s'agissant de Glide que de Bubble.
Ouais, en tout cas, dans Glide de 2020, très, très accessible, et en même temps, après, ils ont quand même pivoté, dans le sens où ils l'ont dit clairement, quand même, ils veulent que Glide soit plutôt utilisé pour faire des applications internes, ce qui, à mon avis, ont tout à fait raison, je soutiens ça à 100%. Mais donc, tu restreins ton marché aussi, quelque part, tu vois, je sais pas, tu vois.
À mon avis, ils sont tiraillés par leur croissance, tu sais, où en gros, ils doivent avoir une croissance assez saine, avec des gens qui payent, parce que je pense qu'ils ont... Ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sur des plans gratuits.
Bien sûr.
Et je pense que c'est bien pour évangéliser, mais en fait, eux, ce qui va leur intéresser, c'est de pouvoir... Enfin, tu vois, même par rapport à leur modèle économique, leur forfait et tout, je pense qu'ils vont être obligés d'aussi faire des forfaits qui sont aussi en cohérence par rapport aux utilisations.
Ouais.
Et ça,
ils l'ont déjà fait un peu, non, quand même? Là, le pricing actuel...
Tu vois, je pense qu'il y a un sujet autour de ça, c'est que, par exemple, des agences comme nous, on veut des pricing spécifiques aux agences, où eux, comme nous, on s'y retrouve, en fait.
Ouais, bien sûr.
Et tu vois, aujourd'hui...
ça n'existe pas.
Ils ne l'ont pas mis en place, et je pense que... C'est un bon modèle de croissance, je pense, aussi, de pouvoir se...
Moi, j'étais un peu choqué, mais quand Stan m'a dit qu'ils ne donnaient même pas de compte gratuit aux ambassadeurs comme vous, tu vois, ou comme Stan et tout, franchement, j'étais un peu choqué parce que ça me paraît être la moindre des choses, quand même, tu vois. Enfin,
je pense qu'il y a des aspects, parce que du coup, là, pour l'événement de demain, on a un plan plus, pour avec toutes les fonctionnalités hyper avancées. Et en fait, d'après ce que je comprenais, c'est qu'il y avait de l'aspect technique qui c'était un peu galère.
Okay.
De leur côté.
Ouais.
Parce que c'est remonté assez haut, c'est redescendu assez bas, et, et ça a mis du temps.
Ouais, ça a mis du temps, rien que pour le contexte de démo, en fait.
Donc ça paraît aberrant, je suis d'accord.
Ouais, ce plan-là, nous, on l'a pas au quotidien, si tu veux. Donc,
Je sais pas, non, mais après, il peut y avoir... Non, mais par exemple, tu vois, moi, je suis assez aligné avec le fait qu'ils font pas du tout de coupons ni rien, tu vois. Comme Webflow, cette politique-là, pourquoi pas, franchement, on essaye de faire pareil. Mais par contre, je pense qu'il y aura la capacité de donner... quand même aux gens, enfin tu vois par exemple Softer, ils font ça, tous les ambassadeurs Softer, ils ont un compte et ça me paraît un peu normal parce que techniquement à la boîte ça lui coûte pas grand chose, enfin la capacité serveur etc, mais
complètement,
tu vois, bon bref, on va pas, c'est,
on est d'accord,
voilà, mais bon,
on
c'est
est
pas,
d'accord.
Je serais pas, mais tu vois c'est toujours je pense un peu ce tiraillement quand tu dis, tu vois, il y a aussi un moment, il faut gagner de l'argent, t'as des investisseurs, c'est intéressant, mais on verra, on aura l'occasion d'en reparler, voilà, mais c'est un petit point d'étape comme ça pour... Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous suivre, vous, personnellement, et puis Datapix, et puis...
On est sur LinkedIn, hein, donc on essaye de restituer, montrer ce qu'on fait aux plus fidèles. On a nos profils LinkedIn. Mmh. Et puis on est un petit peu actif sur Twitter de façon un peu plus anecdotique, ouais. Plus pour suivre
au niveau de.
Ouais,
de
pas, ouais. Pas, Twitter, c'est pas vraiment au niveau. C'est pas un canal entreprise.
Non, c'est ça, c'est plus.
On est plus perso, c'est plus ouvert.
Est-ce voilà. que en tant que Datapix, vous documentez un peu ce que vous faites, du coup est-ce que vous partagez ça un peu
Pour être honnête, aujourd'hui, on n'a pas pris le temps du tout de faire ce genre de choses. Ça viendra peut-être, parce que déjà, en plus, nous, ça nous permettra de pouvoir aussi identifier des bons gliders qu'on pourra recruter derrière.
Bien sûr.
Mais pour le moment, en fait, aujourd'hui, on essaie déjà de répondre à la demande.
Ouais.
Voilà,
c'est
on
le plus important.
On est né dans le guidon dans certains aspects des choses, et peut-être un peu moins là-dessus, effectivement.
Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, et puis à bientôt.
Merci à toi.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, j'espère que... Alors, c'était peut-être un petit peu étrange, je vais vous livrer un petit peu les coulisses de cet épisode, puisque donc, comme vous l'avez compris, comme on le dit dans l'épisode, donc on a enregistré ensemble à Station F. Voilà, j'avais donné rendez-vous à 9h30 à Aymeric et à Vincent, voilà, pour se prendre un petit café à la Felicita, vous savez, le grand restaurant qui est derrière Station F à Paris. Alors Station F, si vous ne connaissez pas Station F, c'est vraiment la mecque un petit peu des startups, voilà, c'est cet immense incubateur. Et donc il y a un café, la Felicita, voilà, donc on se retrouve régulièrement avec des membres de la communauté NoCode d'ailleurs là-bas, c'est un endroit que j'aime bien en tout cas pour donner rendez-vous. Et en fait il y avait énormément de bruit, c'était extrêmement ennuyeux, donc vous l'avez compris, à un moment on a même changé de place. Voilà, parce qu'on était à côté d'un endroit où il y avait plein de gens qui passaient des chariots, des choses comme ça. Et puis on a changé de place, on est allé dehors, et en fait ils se sont mis aussi à passer des chariots à côté, etc. Alors j'ai des très bons micros et un enregistreur qui font que voilà, ça capte pas trop les bruits autour. Normalement, l'idée, ce que je cherchais à faire, c'était qu'il y ait un petit peu un bruit d'ambiance. Parce que souvent, en fait, je donne rendez-vous quand je fais des interviews avec une seule personne. Je donne rendez-vous dans un lieu, voilà, enfin, je réserve en fait une salle ou je trouve un endroit où je vais dans les bureaux des gens, enfin voilà, mais être sûr que c'est un endroit silencieux. Et puis là, pour changer un peu, je me suis dit, en plus, comme on est trois, on va faire une conversation un petit peu vivante, voilà, dans un lieu, je me disais, le matin quand même, bon, il n'y a pas trop de monde normalement. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, un petit peu qu'on soit à une table et puis que vous qui écoutez, bah, vous êtes la quatrième personne à cette table et puis vous êtes un petit peu avec nous et petit bruit d'ambiance, sauf que là il y avait un peu une ambiance un petit peu trop de mise en place de restaurant qui n'a pas bien marché. Donc en écoutant les pistes, bah, j'ai vu qu'il y avait ça et donc voilà, donc j'étais un petit peu gêné, je m'en rendais compte de toute façon même pendant l'enregistrement avec le retour audio. Et il se trouve que je pense que vous n'avez pas entendu en réalité tout ça, puisque j'utilise un logiciel de post-production qui s'appelle Ophonic, qui d'habitude me sert principalement à égaliser les niveaux. Mais là, en fait, j'ai découvert une option qui permet d'effacer les bruits de fond. Et très franchement, j'ai été stupéfait par le résultat, à tel point que je pense que... alors, vous me direz, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on n'entend vraiment plus du tout les bruits de fond. Et pour le coup, et en plus, leur algorithme fonctionne très bien, puisqu'il n'a pas du tout dégradé la voix, ou quasiment pas, parce que ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Des fois, quand on efface les bruits de fond, bah, on dégrade aussi un petit peu la voix. Et donc voilà, et donc, je me suis dit, ça va être très bizarre, puisque... on n'entend pas les bruits de fond, mais sauf que nous, on les évoque, on rigole quand il y a un moment, il y a un chariot qui passe, etc. Voilà, et puis j'avais pas envie de couper ça non plus. Enfin bref, donc c'est un petit peu étrange, je vous livre un petit peu les coulisses. Voilà, moi j'ai trouvé ça drôle, peut-être ça, on comprend rien à tout ça, et peut-être même là, mon explication n'est pas très claire. Voilà. Que vous dire d'autre ? Alors, je pense qu'on entend que ma voix doit être un peu cassée, parce que si vous faites partie des gens qui étaient au NoCode Summit, vous m'avez rencontré, vous avez vu que ma voix était complètement éraillée. J'ai eu une extinction de voix dès le début, en fait. Et donc voilà, forcément, bon, les deux jours n'ont pas aidé, puisque bah, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, et puis il y avait beaucoup de bruit, donc j'ai beaucoup tiré sur ma voix. Donc voilà, donc là, j'en souffre encore un petit peu 5 jours après. Voilà, le NoCode Summit, c'était absolument extraordinaire. J'ai pas créé de contenu pour le podcast à cette occasion. J'avoue que j'y pensais, et puis en fait, finalement, j'avais envie vraiment juste de profiter de ce moment. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait de débrief non plus. Écoutez, il faudra que vous soyez là. On en parlera peut-être un petit peu. Alors, on a fait un live, hein, vous pouvez regarder sur la chaîne Twitch, on a fait un live en direct qui est un petit peu chaotique avec Stan et Lucien. Je pense qu'on en parlera un petit peu jeudi prochain pendant notre live. On fera un petit débrief. Mais voilà, c'était un très très bel événement. Si vous y étiez et qu'on s'est parlé, bah, j'ai eu grand plaisir de tous vous parler. Et puis voilà, et là, en fait, j'ai enchaîné. Donc, le
No Code Summit s'est terminé le vendredi et le samedi matin avec Stan, on a pris l'avion pour se rendre à Athènes où j'enregistre là, donc dans ma chambre. Voilà, je me suis fait un petit setup dans mon placard, vous pouvez regarder sur Instagram si ça vous intéresse. Et voilà, on est à Athènes, c'est le projet No Code House, ce projet dont je ne vais pas trop vous parler là parce que ça sera vraiment le sujet de l'épisode 99. Voilà, j'ai envie de faire un numéro un petit peu spécial, vous le savez, quand il y a des nombres un peu ronds, un peu marrants, un peu, voilà, j'essaye de faire des choses un petit peu spéciales. Donc le 99 sera un épisode spécial enregistré à Athènes, voilà, qui alternera des petits enregistrements que je ferai en live, comme j'ai fait donc dans l'épisode qui était dédié au projet, enfin voilà, à Lisbonne, que vous pouvez écouter. J'avais appelé ça le hors-série volume 1. Et là, ça va être un peu pareil. Donc, je vais me balader un petit peu tous les jours, un peu toutes les semaines. Voilà, faire enregistrer des petits moments en solo, un petit peu en mode log, audio, voilà, un petit journal de bord. Et puis, je vais faire aussi des petits entretiens, des 8 personnes qui vont venir nous rendre visite. Donc voilà, avec Stan, on reste tout le mois, mais on a pris un appart qui a 4 chambres. Et donc, on a chaque semaine 2 personnes qui viennent nous rendre visite. Et voilà, il y a une rotation. Et donc, chacune de ces personnes, je vais leur poser des questions, je vais enregistrer. Et puis, je vais essayer de produire un épisode un petit peu sympa, un petit peu différent, pas en mode entretien, mais plutôt, je sais pas, moi je suis un fan des podcasts d'Arte Radio par exemple, j'aimerais bien faire quelque chose un petit peu dans cette veine là. Alors c'est pas mon métier malheureusement, mais on va essayer de faire un truc quand même un petit peu sympa. Donc voilà, donc ça sera l'épisode 99, et puis l'épisode 100, comme je l'ai dit, donc ça sera un épisode en public, qui sera enregistré en public. J'espérais faire ça en novembre, mais je pense que ce sera plutôt en décembre, malheureusement, parce que c'est pas forcément facile d'avoir un endroit, puis j'ai un lieu que j'ai trouvé à Paris. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va prendre le temps de le faire bien, on n'est pas pressé, on n'a pas d'enjeu. Voilà, donc on verra. Un épisode en public et un épisode qui sera pas forcément un entretien, qui sera plutôt sous la forme d'une émission avec des chroniqueurs et des chroniqueuses, et puis voilà, puis des interactions avec le public évidemment, tant qu'à faire. Donc voilà, on va voir, hein, ça va être complètement artisanal, on va commencer à préparer ça. Si jamais vous écoutez jusqu'au bout, donc vous faites partie des auditeurs et des auditrices fidèles qui écoutez, alors là j'en suis à 6 minutes, c'est un record, hein, mais voilà, et que potentiellement vous seriez intéressé pour faire une chronique dans cette émission live, alors il faudrait être à Paris, hein, ça sera pas à distance, mais si vous êtes intéressé, alors une chronique c'est quoi? C'est 5 minutes où vous allez parler seul sur un sujet, voilà, défricher un petit peu un sujet, puis ensuite on en débattra avec les différents chroniqueurs et chroniqueuses qui seront là, et puis voilà, on choisira un sujet un peu ensemble, hein, enfin voilà, on travaillera ensemble, mais voilà, ça peut être sympa, donc voilà, et si vous êtes intéressé aussi d'être dans le public, bah vous inquiétez pas, évidemment, je ferai passer les informations. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, il n'y a pas de raison de faire trop long. Déjà que, en plus, je me rends compte que déjà l'échange avec Vincent et Emeric était très long. J'ai fait un petit lapsus, j'ai parlé de Xavier. Xavier, si tu écoutes, je pense à toi très souvent. Voilà. En parlant de chroniqueur, je pensais à toi. Voilà. C'est un petit message perso, mais je sais que tu écoutes souvent les épisodes jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un petit coucou. Voilà, ouais, j'ai rencontré tellement de gens à l'occasion là, du No Code Summit. Ça m'a laissé plein de petit peu des étoiles dans les yeux et c'était vraiment assez génial. Bah écoutez, voilà. Je m'arrête là, merci beaucoup d'écouter ce podcast, de l'écouter jusqu'au bout. Envoyez-moi votre animal préféré en DM ou en réaction, voilà, en emoji, voilà, comme d'habitude. Et puis, écoutez, à très bientôt. Alors, je vous dis pas à la semaine prochaine, hein, là, pour une fois, là, je sais pas du tout, ça sera dans bien plus longtemps. Et puis, si vous écoutez de toute façon ce podcast plus tard, et ça n'aura pas de sens. Mais je vous dis à très bientôt pour l'épisode 99 du podcast de Contournement.